Vous écoutez
RMC.
Bon réveil à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Vous êtes sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal avec Thibaut Texier. Bonjour Thibaut.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il projetait de s'en prendre à Donald Trump et à son administration. On en sait plus ce matin sur le profil de l'homme qui a tenté de faire irruption à un gala samedi soir à Washington aux États-Unis. Soupçonné d'avoir tué Ivan Colonna en prison il y a 4 ans, Franck Elongabé sera jugé pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Et Paul Sexas, encore brillant hier, le cycliste français, deuxième de Liège, Bastogne-Liège, tenant tête au vainqueur Tadej Pogacar, un duel qu'on aimerait bien revoir sur les routes du Tour cet été.
Il voulait s'en prendre aux membres de l'administration Trump.
Le suspect interpellé samedi soir à Washington après avoir tenté de s'introduire à une soirée de gala en présence de Donald Trump. Il va être présenté à la justice aujourd'hui. Un Californien de 31 ans qui aurait envoyé un manifeste. Son contenu, Romain Houg, a été dévoilé par la presse américaine et nous permet, Romain, d'en savoir plus sur son profil.
Oui, c'est un document que Cole Thomas Allen a envoyé à sa famille peu de temps avant de passer à l'acte. Un manifeste donc dans lequel l'assaillant présumé et qui se surnomme lui-même la amical, assassin fédéral, insulte Donald Trump. Il critique sa politique migratoire, mentionne les morts civiles dans les guerres où sont impliqués les États-Unis. Il évoque aussi l'affaire Epstein, un manifeste qu'a pu lire Donald Trump. Il en parle dans une interview accordée hier soir à la chaîne américaine Fox News.
Il a beaucoup de haine dans son cœur depuis très longtemps. Quand vous lisez son manifeste, il est très très anti-chrétien. C'est quelqu'un de très dérangé. Il a de gros problèmes dans sa vie.
Quant à la préparation de cette attaque, le suspect aurait d'abord traversé le pays en train afin d'éviter les contrôles aux aéroports. Il était un client de l'hôtel Hilton où avait lieu le gala. Il avait une chambre dans laquelle il a pu introduire de nombreuses armes. Au moment de l'attaque, l'homme était équipé, selon la police, de 2 armes à feu et de nombreux couteaux. Enfin, le suspect ironise même sur la sécurité aux abords de l'établissement et la facilité avec laquelle il a pu accéder à l'hôtel, raillant, je cite, le niveau d'incompétence insensée des autorités.
Et c'est dans ce contexte que le roi Charles III va entamer aujourd'hui une visite de 4 jours aux États-Unis qui célèbre le 250e anniversaire de son indépendance. La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences sur l'économie, preuve en est ce chiffre de l'UMI que vous révèle RMC ce matin de la fréquentation en baisse de 20% dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Parmi les causes évoquées, le coût des déplacements liés à la hausse du prix des carburants, c'était l'une des raisons de la colère des ambulanciers le 8 avril dernier, un plein de plus en plus cher, goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une profession sous tension. Ils ont rendez-vous au ministère de la Santé aujourd'hui. Rachel Sadodine.
Jusqu'à 500 km, c'est la distance que parcourt chaque jour Mickaël au volant de son ambulance. Il a vu sa facture de carburant s'envoler.
Nous, on ne peut pas se mettre en télétravail, c'est impossible. Il faut bien faire le transport des patients, donc on ne peut pas économiser du carburant, c'est pas possible.
Une hausse des prix des carburants impossible à répercuter sur les tarifs qui crée un trou dans la trésorerie du patron. Pierre-Yves Vanstavel, gérant de la société Cray Ambulance.
On réduit pas nos marges, on n'a déjà pas de marge. Depuis le début de l'année, on a perdu au moins 150 000 euros de chiffre d'affaires.
Vous êtes déjà bénéficiaire d'une aide sur le carburant.
Oui, 70 euros d'aide par véhicule, c'est juste se moquer du monde.
Alors même que la grille tarifaire en place est déjà trop basse, selon le secrétaire général du principal syndicat d'ambulanciers.
La garde aujourd'hui, telle qu'elle est faite par les ambulanciers, est rémunérée 64 euros de l'heure par l'État. Je dois mettre à disposition un véhicule équipé de professionnels de santé, plus le matériel qui va à bord.
Un tarif fixé par l'assurance maladie qui ne lui permet pas de payer ses employés au-dessus du SMIC. Au ministère de la Santé aujourd'hui, il réclamera donc une revalorisation des tarifications des ambulanciers.
On n'a pas fini de parler des conséquences de cette guerre en Iran et de cette crise sur le pétrole. On a évoqué les restaurateurs, les vols annulés aussi, c'est une info qu'RMC vous donné hier pour Transavia. Et là, les ambulanciers, vous attendez quoi de ce rendez-vous avec le gouvernement? Venez nous le dire au 32-16 ce matin.
4 ans après la mort d'Ivan Colonna à la prison d'Arles, Franck Elongabé sera jugé pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Un procès aux assises ordonné par 2 juges d'instruction. Ils évoquent, Julie Brault, la volonté de tuer sans équivoque du détenu radicalisé soupçonné d'avoir mortellement agressé le militant corse.
Oui, c'est après avoir blasphémé contre le prophète qu'Ivan Colonna aurait déclenché la colère de Franck Elongabé, un détenu radicalisé, décrit comme particulièrement dangereux et instable. Il est accusé d'avoir violemment tabassé le militant corse avant de l'étouffer pendant plusieurs minutes. Le suspect n'est en revanche pas renvoyé pour association de malfaiteurs, lui qui a pourtant assuré avoir agi suite à un acte commandité par les services français. Une thèse également soutenue par les avocats d'Ivan Colonna qui se sont indignés hier que l'hypothèse retenue soit celle d'un acte solitaire, malgré de nombreuses zones d'ombre, disent-ils, comme la maintenance des caméras de vidéosurveillance de la prison, pile le jour de l'agression du militant corse.
Le personnel pénitentiaire mobilisé ce lundi à l'appel de plusieurs syndicats plante à bloquer les prisons depuis 6 heures ce matin afin de dénoncer le manque de personnel mais aussi la surpopulation carcérale.
Un bras de fer à présent et franchement venez arbitrer ce bras de fer au 32-16 ce matin. On vous attend, un bras de fer engagé par le maire de Saint-Ouen contre l'installation d'un fast-food Master Poulet.
L'enseigne a récemment ouvert l'un de ses restaurants dans cette commune de Seine-Saint-Denis contre l'avis de l'édile socialiste Karim Bouamran, bien décidé à lutter contre la malbouffe et la multiplication de ce genre d'enseignes largement relayées sur les réseaux sociaux. L'affaire qui a pris une tournure juridique divise les habitants de la ville. Antonin Audion l'a constaté sur place pour RMC.
Une bataille à coups de banderoles sur la devanture.
Karim, l'argent public n'est pas au service de ton ego.
Et d'une dizaine de grands pots de fleurs d'1m50.
Mis en place pour gêner l'accès à la clientèle.
La clientèle d'un restaurant de poulet à emporter. Le maire veut les interdire dans le centre de sa commune, soutenu par certains habitants.
C'est bien ce que le maire a fait là pour pouvoir ouvrir un commerce. Si c'est une boulangerie, c'est encore mieux. Mais l'odeur de la fouture, ça sent fort la fouture.
On aimerait peut-être avoir effectivement d'autres commerces plutôt que ce genre de fast-food. Ouais, moi, je suis d'accord.
Mais pour d'autres comme Nicolas, ce type de commerce correspond à l'ADN de la ville.
Je vis à Saint-Ouen depuis 20 ans. Il y a ce type d'enseigne tous les 100 mètres dans Saint-Ouen. Il y en a plein à l'avenue, là. Il y en a partout. Pourquoi on leur fait un procès, eux ?
Entre le maire et Master Poulet, Jean Cat a choisi son camp. Question de prix.
Le riz au poulet, il est à 3,50. Avec un blanc de poulet, là, je viens de payer 7 euros. J'ai un repas complet. Il n'y a rien de moins cher aujourd'hui et de plus accessible pour nous qui sommes des jeunes, on est en alternance. Voilà, on n'a pas forcément les moyens.
La France Insoumise s'est mêlée à la polémique avec le député Éric Coquerel. Il accuse la mairie de favoriser l'installation de restaurants à destination des plus aisés en oubliant toute une partie de la population.
L'OM ralenti par Nice dans sa course à la Ligue des Champions. Un but partout hier soir au Vélodrome. Les Marseillais, 6e ce matin, comptent 4 points de retard sur Lyon et Lille, 3e et 4e.
Et cette question, ce matin, c'est la question à 7h07. Paul Sexas va-t-il participer au prochain Tour de France ?
Le cycliste laisse planer le doute, ses fans en rêvent. Le peloton en parle au lendemain d'un nouveau coup d'éclat. 2e hier sur Liège-Bastogne-Liège à seulement 19 ans. Sur le podium entre le vainqueur Pogacar et Evenepoel. Des adversaires dithyrambiques au sujet du jeune cycliste français qui a encore marqué les esprits, Kevin Morand.
Oui, Paul Sexas a tout donné, seul capable de suivre Tadej Pogacar dans la côte de la Redoute, où le Slovène avait construit ses précédentes victoires. Sur ce monument, le Français, 2e à l'arrivée.
Je me suis senti vraiment bien, j'étais vraiment à bloc en haut, donc je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de m'accrocher jusqu'à la fin. Et voilà, il était juste plus fort à la fin, je pouvais pas suivre, il manquait un petit peu. La deuxième sur un monument, c'est super.
Même si Sexas a cédé dans la dernière montée, sa performance marque une nouvelle fois les spectateurs belges, comme Antoine et Brice.
Franchement, très impressionnant, en plus à 19 ans, il a encore une grosse marge de progrès.
Pouvoir déjà les loindre, les forts mentalement et tout ça, il est déjà fort, il est hors norme.
Devant Remco Evenepoel hier, Paul Sexas envoie un message fort qui fait saliver le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme.
C'est une course qui nous projette déjà peut-être un peu vers le mois de juillet. D'une manière générale, c'est exceptionnel de voir un garçon comme ça à 19 ans capable de résister dans un des monuments du cyclisme. C'est vrai qu'il ouvre une nouvelle page. Son arrivée est vertigineuse sur le sport français.
Tadej Pogacar pense d'ailleurs retrouver Sexas sur le Tour de France cet été, qui lui répond.
Franchement, je serais heureux de le revoir, mais voilà, on verra. Comment on fait.
Sexas annoncera son programme estival après quelques jours de vacances bien mérités.
Et puis un autre Français brillant, Victor Wembanyama, auteur de 21 points pour son retour face à Portland. Avec San Antonio, les Spurs mènent 3-1 et pourraient se qualifier dès demain pour le prochain tour des playoffs en NBA.
Merci beaucoup Thibaut Texer, c'était le journal de 7h et ce matin on a donné la parole aux restaurateurs dans le morning, notamment avec Élise Dangean qui est de retour. Bonjour Élise.
Salut Mathieu.
On a parlé des restaurateurs qui tirent la langue depuis le début de la crise en Iran.
Oui.
En gros, les Français font le plein de carburant, ils peuvent aller au resto, mais ils n'ont plus les moyens de se le payer le resto, une fois qu'ils ont payé le plein. Et Valérie voulait réagir depuis les Alpes-Maritimes. Soyez la bienvenue Valérie sur RMC, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour Élise.
Vous n'êtes pas restauratrice vous ?
Non, pas du tout, je suis consommatrice on va dire.
Et vous avez arrêté, réduit le restaurant ?
J'ai réduit, puis c'est ce que je disais au standard. Ouais. Ce qui m'a fait un petit peu réagir, c'est votre intervenant qui a parlé tout à l'heure, le monsieur qui était représentant de l'UMI.
Oui, c'est le nom des métiers et des industries de l'hôtellerie.
Voilà,
Franck Chomès, c'est ça ?
C'est ça.
Les restaurateurs vont trouver une solution, peut-être notamment en diminuant les quantités dans les assiettes. Alors là, moi, je suis sortie de mes gonds parce que écoutez, je trouve déjà que les quantités ont largement diminué et les prix ont largement augmenté. Donc, à ce rythme-là, moi, le resto, de toute manière, c'est simple. J'ai une brasserie de village, deux ou trois petites brasseries autour et un bon gastro. Et je m'en tiens là, je ne vais plus dans les autres restaurants parce qu'à chaque fois...
C'est de la, ce qu'on a appelé dans l'industrie la shrinkflation, quoi. Vous dites réduire la portion dans l'assiette et maintenir le prix, voire l'augmenter. Vous vous sentez quoi, arnaqué, Valérie ? Je vais vous poser la question en d'autres termes. Évidemment, tout le monde peut se sentir arnaqué quand on le présente comme ça. Mais ces restaurateurs-là, s'il s'agit juste de courber les chines un petit peu le temps que la crise passe.
Mathieu, moi, ce que je reproche aussi là-dedans, c'est que les restaurateurs, souvent, ils veulent faire beaucoup de plats. Moi, j'irai plus facilement chez des restaurateurs qui font vraiment eux-mêmes leur cuisine, parce que ça aussi, on le cherche. Mais mettons, et vous avez trois entrées, trois plats, trois desserts, et basta. Vous avez des cartes qui n'en finissent pas, et souvent avec des produits qui sont achetés, qui sont déjà préparés.
Ah oui, non, mais c'est là, voilà. Vous mélangez plusieurs débats, mais qui vont avec la restauration, mais qui vont aussi avec cette forme de désamour dont vous parliez, Valérie. Vous avez choisi quelques restos, ce sont les vôtres, et vous n'allez plus trop ailleurs. Venez répondre à Valérie ce matin, est-ce que la solution, c'est de baisser les portions dans les plats ? C'est vrai que présenté comme ça, ça paraît fâcheux pour les gourmands que nous sommes, éventuellement, Valérie. Mais en tout cas, vous venez nous dire si ça peut aider les restaurateurs à passer le printemps et l'été. On ne sait pas combien de temps va durer cette crise des carburants. Mais merci, Valérie, d'avoir composé le 32-16 ce matin. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les marges des distributeurs de carburant, toujours, on en parle toujours, ont-elles explosé depuis le début du conflit au Moyen-Orient ? Un document de Bercy accuse, les professionnels enragent. On pose la question dans un instant à Francis Pousse, président national des stations-service chez Mobilience. Nous ne sommes pas des profiteurs de crise, c'est son parti pris. Mais alors à qui profite la crise ? Qui s'enrichit ? Je lui pose la question aussi. Restez bien sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Mathieu Béliard.
Il est 7h14 sur RMC, RMC Story. Un document de travail de Bercy commandé par le Premier ministre accuse les distributeurs de carburant d'avoir fortement augmenté leur marge brute depuis le début du conflit au Moyen-Orient, de 30 à 40 centimes, jusqu'à 50 centimes par litre pour certains. Une nouvelle réunion est prévue cette semaine à Bercy. Bonjour Francis Pousse.
Bonjour.
Vous êtes président national des stations-service chez Mobilience. Vous représentez les pompistes aujourd'hui, faut le dire clairement. Nous ne sommes pas des profiteurs de crise, c'est votre parti pris. Les distributeurs accusés de voir leur marge exploser. Vous contestez ces chiffres ?
Ah oui, tout à fait. Comme vous le dites, c'est un document de travail. Je pense que si Bercy ou un autre ministère avait voulu communiquer d'une manière officielle, ça serait appelé communiqué de presse ou quelque chose d'officiel.
Ouais.
Donc, ce document de travail correspond à une première partie de travail que l'on est en train de faire avec Bercy, mais sur lequel on n'est absolument pas d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que, et lundi matin, et jeudi après-midi, on s'est encore revu avec Bercy, pour affiner la méthode de calcul qui n'est, sur ce document de travail, certainement pas la bonne.
Alors, l'enjeu, c'est de calculer comment on calcule vos marges, Francis Pousse. Sur quoi porte le désaccord ?
Ben justement, sur la base de calcul de ces marges, alors je vais essayer d'être pas trop technique, mais en fait, le gouvernement prend la cotation, la fameuse cotation Rotterdam de J-2 à J-7,
ouais.
Ce qui fait donc une moyenne. Mais pendant ce temps-là, la station, elle n'a pas un tarif qui est moyenné. Elle a un tarif au jour le jour en fonction du cours du prix du jour.
Mmh.
Et donc, vous pouvez très bien acheter à 100 alors que la moyenne est descendue à 80. Si, de l'autre côté, vous faites une étude de ce que j'appelle moi des coûts de distribution et pas des marges, forcément, vous avez des décalages qui sont très importants.
Alors, c'est Francis, tout le travail. Vous dites nos marges ne sont pas passées de 30 à 40 centimes, voire 50 pour certains ?
Je dis que sur la base de ce document de travail, on ne peut rien affirmer du tout, puisque justement, les éléments de calcul, on est juste en train de les discuter. Je rappelle qu'on ne parle pas de marge, mais de coût de distribution, et c'est surtout pas 30, que ce soit 30, 40, 50, c'est surtout pas ce que se met dans la poche un pompiste, puisque ces coûts de distribution sont le facteur de sortie de raffinerie jusqu'à la station-service. Je m'explique. Vous avez sortie de raffinerie jusqu'aux 200 dépôts français, plus de le transport de ce carburant par train, par pipeline ou par même 1, 2, 3.
C'est ça qui est dans cette marge.
Voilà. Après, il faut payer les 200 dépôts français et payer à nouveau le transport jusqu'à la station-service. C'est ça que représentent les 30 centimes. Donc,
ce qu'on appelle la marge brute, et ça a augmenté.
Ça aurait augmenté, mais encore, je suis très surpris, puisque jeudi, on a eu plutôt un satisfecit de la part des ministres sur justement la tenue de cette marge. Comme quoi, ce document n'est qu'un document de travail et il est absolument contraire à ce qu'on est en train de discuter.
Mais admettons que c'est qu'un document de travail, mais pardonnez-moi, Francis Pousse, on est le 27 avril, ça fait 2 mois la guerre. Ça a augmenté ou pas les frais que vous, dont vous parliez pour la marge brute ?
Non, la marge brute n'a pas augmenté. Il y a à la marge, c'est le cas de le dire, par contre, des augmentations de frais de transport, ce qu'on peut tout à fait comprendre. Hein, le gasoil est plus cher, donc les camions qui nous approvisionnent, ça coûte un peu plus cher. Mais globalement, d'ailleurs, la marge globale évoquée est de 30 à 33 centimes, qui correspond tout à fait à ce qu'il se passait avant la guerre.
Francis Pousse, le document de Bercy citerait Eni, Esso, Avia, des enseignes Carrefour, Intermarché. Vous dites, nous ne sommes pas des profiteurs de crise. Mais alors, si c'est pas vous, qui, Francis Pousse, qui s'en met plus dans les poches ces dernières semaines?
Vous avez remarqué que c'est d'abord le cours international, le fameux Brent, puis derrière la cotation Rotterdam qui ont beaucoup augmenté. Donc, c'est quelque part la faute, un, à la guerre, et deux, à l'ensemble des traders, éléments financiers qui jouent malheureusement sur la hausse du baril. Et c'est pareil sur d'autres matières premières, on en parle des fois, mais le blé, etc. Et malheureusement, ce sont la plupart du temps, ces financiers qui aident à faire augmenter le prix du Brent.
Mais bon, le problème, Francis Pousse, et vous le connaissez très bien puisque vous venez régulièrement sur RMC, c'est qu'on a tous le sentiment que quand ça augmente très vite et que quand ça descend, ça met un peu plus de temps. Le baril, là, il est au-delà de $106, il est remonté. On n'a peut-être pas eu la baisse qu'on attendait, ça a pourtant baissé un peu, mais peut-être pas autant qu'espéré. $106 aujourd'hui, ça veut dire que concrètement, on va rester dans des tarifs de crise encore quelques semaines.
Malheureusement, oui, on a une très grande volatilité. Moi, j'ai jamais vu ça en 12 ans de présidence de cette branche carburant au sein de Mobilience. C'est toujours le jour. Donc, la semaine dernière, on a eu une belle détente sur le prix du gasoil. Malheureusement, depuis, ça réaugmente. Et bien entendu, ça va se voir.
Une belle détente, ça reste à 2,15, hein, Francis Pousse. Hein. Il était à 1,70 avant la guerre.
Oui, non, mais attendez, avant la guerre, on n'était pas du tout au-delà de $100, hein, on était aux alentours de 70, avec un gasoil à Rotterdam qui était aux alentours de $700 la tonne. Là, on parle de $1,200 la tonne, vous voyez la différence. Et malheureusement, ça se retrouve à la pompe. Et les prix que nous recevons tous les matins dépendent de ces cotations internationales, sur lesquelles nous, on rajoute notre marge habituelle, et certainement pas en l'augmentant, puisque la France est un pays très concurrentiel en termes de prix de carburant, 65% de part de marché pour les grandes surfaces. Et on ne peut pas se permettre de décaler. Déjà qu'on en vend moins quand c'est cher, imaginez ce que ça serait si c'était encore plus cher.
Francis Pousse, merci beaucoup, président national des stations-service chez Mobilience. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Les prix à la pompe, ça, vous les constatez, vous les commentez au 32-16, vous n'hésitez pas. Mais surtout, vous nous dites ce matin si vous avez renoncé à des loisirs, restaurants par exemple, ou même à des projets. On parle des vacances, 7h20 sur RMC, RMC Story. Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous, Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Mathieu.
L'historien d'Apolline Matin. Arthur, Donald Trump exfiltré lors de la fusillade samedi soir à Washington. Eh bien, cette fusillade, elle a eu lieu au même endroit que la tentative d'assassinat de Ronald Reagan en 1981.
Et oui, son auteur, c'était John Hinckley Jr. Et il voulait tuer le président pour impressionner une star de Hollywood.
Et puis, le 8h30, le face-à-face sur ce sujet, justement, avec Christian Proutot, fondateur du GIGN. Et attention, dans 5 minutes, Arnaud Demange vient pirater l'interview. Vous ne bougez pas, on revient dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC et RMC Story. Le suspect ne coopère pas activement. C'est ce qu'a déclaré hier le procureur général par intérim des États-Unis à propos de la fusillade qui a eu lieu samedi soir à Washington et au cours de laquelle Donald Trump a donc été exfiltré, Arthur Chevalier.
Et oui, c'était pendant le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche. La tradition veut que le président y assiste, donc Donald Trump était là avec sa femme et une partie de son administration. Et alors que le dîner se déroulait normalement, un homme de 31 ans a forcé un barrage de sécurité. Il a ensuite ouvert le feu sur la police avant d'être maîtrisé dans la zone de contrôle, donc en fait à l'extérieur du dîner. Quand les coups de pistolet ont retenti, le président, sa femme et le vice-président ont été exfiltrés.
Et cette scène de chaos ne s'est pas déroulée n'importe où.
Et non, puisque la cérémonie avait lieu à l'hôtel Hilton de Washington, donc dans la capitale américaine. Et c'est un hasard du destin incroyable, Mathieu, puisque dans ce même lieu, il y a 45 ans, on avait déjà tenté d'assassiner un président américain. Ce président, c'était le républicain Ronald Reagan. Alors à l'époque, il venait tout juste d'être élu 2 mois auparavant.
Mais alors qu'est-ce qui s'était passé ?
Alors nous sommes le 30 mars 1980. Le président Reagan donne une conférence à l'hôtel Hilton de Washington, donc celui où dînait Donald Trump samedi soir. Il donnait une conférence devant une puissante fédération syndicale. L'événement se termine. Ronald Reagan sort de l'hôtel et avant de regagner sa voiture, il prend un petit peu de temps pour saluer la foule. Et à ce moment-là, un homme de 25 ans qui s'appelait John Hinckley Jr. sort un revolver et là tout va très vite. Il tire plusieurs coups de feu et une balle rebondit sur la limousine présidentielle pour venir se loger dans la poitrine de Reagan. Mathieu, le président est touché.
Je ne savais même pas qu'il avait été touché. Il a survécu ?
Et il a survécu. Absolument, il a survécu. Opéré en urgence, survécu. 12 jours plus tard, Reagan sortait de l'hôpital en bonne santé. Alors évidemment, c'était un événement tragique, mais qui a aussi rendu très populaire Reagan auprès des Américains. Mais dans cette affaire, le plus intéressant, c'est en fait l'homme qui a ouvert le feu. Naturellement, la police l'a interrogé, lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Et alors là, Mathieu, tenez-vous bien, il a répondu qu'il avait essayé de tuer le président pour impressionner l'actrice Jodie Foster, dont il était tombé amoureux en voyant le film Taxi Driver.
Donc on peut dire, je crois, que c'était un déséquilibré.
C'est en tout cas ce que dira la justice. Il est inculpé pour tentative d'assassinat sur le président américain et les juges l'ont finalement déclaré irresponsable de ses actes en raison d'une psychose aiguë. Du coup, il a été interné en hôpital psychiatrique, un hôpital dont il est sorti libre en 2022 à l'âge de 67 ans. À l'heure où on parle, il est donc libre et vivant.
Merci Arthur. Merci Chevalier. L'histoire, l'actualité avec vous pour écouter vos chroniques. Toutes les chroniques d'Arthur Chevalier, direct sur le podcast, sur l'application RMC, bien entendu. Il est 7h25.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Bonjour Arnaud Demanche.
Bonjour Mathieu Béliard.
À 8h30 tout à l'heure sur RMC et BFM TV, l'invité du face-à-face, c'est Christian Proutot, fondateur du GIGN.
Oui, fondateur du GIGN, fondateur du groupe de sécurité de la présidence de la République. Ouais. Dirigeant d'une cellule antiterroriste, le gars, il a même formé Jean-Claude Van Damme. Je l'ai croisé dans les couloirs, je n'ai même pas osé tousser. Si vous le voyez, Mathieu, pas de mouvement brusque. T'éternues, tu te retrouves plaqué au sol avec une clé de bras. C'est pas un type qu'on a envie de contrarier, Christian Proutot. Hein, lui, quand il va à la crèmerie, il récupère le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et un grand sourire du crémier qui fait « Ne me tuez pas, soyez gentil !» Bref, c'est la personne idéale pour analyser ses coups de feu lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. C'était un gala avec plein de journalistes où se trouvait Donald Trump. Et ce sera une analyse brillante, l'analyse de Christian Proutot. Voilà.
Voilà.
Forcément brillante.
Fin de la chronique.
Voilà. Hein, non, parce que de toute façon, vu le bonhomme, on va pas s'amuser à contester une analyse de Christian Proutot. Voilà. C'est à nous à se retrouver en garde à vue dans un local qui est répertorié nulle part. Christian Proutot a raison. Voilà.
Qu'on se le dise.
Et s'il a tort, c'est qu'il a raison d'avoir tort. Voilà. Alors, l'agresseur a été arrêté avant de pouvoir tirer sur le président américain. Ce naze. Non mais il l'a même pas eu, Christian Proutot, il l'aurait eu Trump, et il aurait réussi à le buter, et avec un cure-dent, et après avoir énucléé tout le service de sécurité avec une cuillère à melon. Alors, je dis ça, j'exagère en fait, hein. Bon, parce qu'il a fondé le service de protection des présidents dans les années 80, en attendant Mitterrand est quand même mort, hein, voilà, bravo Christian. Hollande c'était autre chose, la plus grosse menace c'était le frigo, il y avait les gars de la sécurité qui devaient lui barrer la route jusqu'au frigo pour empêcher le cholestérol de s'en prendre à notre président. Trump aurait pu ne pas être là parce qu'il est notoirement en froid avec les journalistes, d'habitude il vient jamais à ce gala, ça a dû le rendre fou d'ailleurs cette histoire. Mais il y a un zinzin avec plein de fusils qui aurait pu flinguer des dizaines de journalistes et vous l'arrêtez avant qu'il puisse le faire, vous êtes débile ou quoi? Rendons quand même hommage à l'agent du Secret Service qui s'est fait trouer la peau par une balle, hein, pour Donald Trump, il y en a eu un. Tu te rends compte, tu te prends un trou de balle pour en protéger un autre, c'est relou quand même. Sors de ce corps, Raymond DeVos. Vous avez vu, c'est Victor Hugo ce matin qui a fait les textes. C'est bossé. Heureusement qu'il y a eu un week-end pour travailler tout ça. Alors, le suspect est un trentenaire californien de 30 ans, prof. Probablement un peu fou, hein. Tu sens qu'il a perdu l'esprit. Normalement, les profs nerveux aux États-Unis se mettent pas dans le crâne d'aller tirer sur un président. Ils se contentent de leurs élèves. Bon, c'est là qu'on voit que ce gars-là, il était pas net, quoi. Allez, rendez-vous avec Christian Proutot à 8h30. Soyez à l'heure.
Si vous Christian ne l'êtes Proutot, pas, qui est le nouveau Chuck Norris.
Voilà, il viendra vous chercher pour écouter son interview.
C'est le face à face à 8h30. On vous retrouve à 8h20. Et juste après, il y aura le Nicolas Canteloup aussi à 8h50 sur RMC, bien entendu. 7h28, on revient tout de suite pour la météo et les infos. Il est 7h30.
RMC.
Apolline Matin.
Bienvenue sur RMC, c'est l'heure du journal de Thomas Becker. Bonjour Thomas.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. À la une, cette info RMC, plus de 70% des gérants dans l'hôtellerie-restauration constatent une baisse de la fréquentation depuis le début de la guerre en Iran. Plus de 24 heures après l'intrusion d'un homme armé lors d'un gala en présence de Donald Trump, beaucoup de questions autour du dispositif de sécurité. L'assaillant a été arrêté à quelques mètres seulement de la salle de réception. Et puis J-1 avant la demi-finale de la Ligue des Champions PSG-Bayern. RMC est à Munich, où les supporters n'ont Dieu que pour le français Michael Olise.
Conséquence directe de la guerre au Moyen-Orient, l'hôtellerie-restauration constate une baisse de sa clientèle.
Les trois quarts des gérants du secteur confirment cette tendance selon une étude de l'UMI que RMC vous révèle ce matin. Parmi les causes avancées, la hausse du coût des déplacements qui freine les envies de sortie des Français. C'est le cas à Toulouse, où les terrasses ne font pas le plein malgré le soleil, Jean-Wilfried Forquès.
Il y a tout juste un an, Jean-Charles Carrère, le gérant de cette guinguette installée en bord de Garonne, accueillait 5 à 600 clients par jour.
On faisait pratiquement 70% de plus de chiffres. En ce moment, on n'est même pas à 100, 120 personnes par jour. Ça, c'est une moyenne. C'est très, très inquiétant.
Et il ne fait plus appel qu'à 5 salariés au lieu de 11 au printemps dernier. Car les clients de sa guinguette dépensent peu, comme le remarque Latifa, qui travaille à ses côtés.
Le ticket moyen était à 30 euros, et là, en fait, il est à 10 euros. Et on a constaté que les gens prennent une salade à deux.
Et dans toute la région, l'hébergement n'est pas épargné, remarque Brice Sanac, président de l'Union des métiers de l'hôtellerie dans les Pyrénées-Orientales.
On n'est pas sur des gros week-ends, comme on a pu avoir les années précédentes, quand le beau temps est au rendez-vous, parce qu'il l'est. On a beaucoup d'espoir, week-end du 1er mai, week-end du 8 mai, week-end de l'Ascension, ça va être des week-end tests.
En Occitanie, en un an, la baisse du chiffre d'affaires peut aller jusqu'à 60% pour certains professionnels.
Autre conséquence de la guerre, la compagnie française Transavia annonce supprimer 2% de ses vols sur les mois de mai et juin. Information RMC ce matin, décision liée à la flambée des prix du kérosène.
Et c'est la question qu'on vous pose ce matin. Est-ce que vous avez renoncé récemment au restaurant, peut-être réduit l'addition? Est-ce que vous changez vos plans pour les vacances? Les conséquences directes de la crise au Moyen-Orient avec vous au 3216 ce matin et sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424. On part aux États-Unis à présent avec cette question. Évidemment, Thomas, comment un homme armé d'un fusil a-t-il pu se retrouver à quelques mètres seulement du président américain ?
Question qui fait aussi la une de la presse américaine alors que la scène s'est produite dans un lieu fermé. Fusil à la main, un homme d'une trentaine d'années qui avait l'intention de cibler le président américain a été stoppé in extremis. Amélie Courtet, pour l'expert que vous avez interrogé, aucun doute, il y a eu plusieurs failles de sécurité.
Sur un événement aussi sensible, en présence du président et du vice-président des États-Unis.
Que fait un individu si puissamment armé au sein de cet hôtel sans qu'il passe dans des détecteurs de métaux et qu'on l'interpelle de suite?
Pour l'expert en sécurité Pascal Bito Panelli, il y a forcément eu des failles. D'après la police, le tireur armé d'un fusil de chasse, d'un pistolet et de couteau était un client de l'hôtel où était organisé le gala.
À partir de J-2 sur ces événements, on doit valider l'ensemble des personnes qui sont dans l'hôtel, autant au niveau du personnel que des invités. C'est ce qui semble très étonnant.
Autre interrogation, après les premiers coups de feu, le vice-président J.D. Vance s'est évacué par le Secret Service, la protection rapprochée du président avant Donald Trump.
Techniquement, sur l'évacuation, elle est confuse et un peu tardive parce qu'on voit réagir le Secret Service après même que des invités soient cachés sous la table.
L'essentiel, tempère Pascal Bito Panelli, a été assuré.
Le président n'est pas blessé et en sécurité.
Mais la collaboration entre les différents services de sécurité doit être perfectionnée selon lui.
Le ministre des Affaires étrangères iranien est arrivé à Saint-Pétersbourg. Il va s'entretenir avec Vladimir Poutine. D'après l'ambassadeur iranien en Russie, les deux pays présentent un front uni face à la domination occidentale. Pas de confirmation, en revanche, de nouvelles discussions directes entre l'Iran et les États-Unis.
Juste après ce journal, Charles Aloncle est l'invité d'RMC. C'est le désormais célèbre rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public.
Et aujourd'hui, 30 députés se réunissent à l'Assemblée nationale. Au programme, un vote pour décider si le rapport sera rendu public ou non. Son contenu a déjà en partie fuité dans les médias, dont une partie des propositions choc du rapporteur Sonia Gobry.
Oui, pour économiser 1 milliard d'euros, Charles Alonque le préconise notamment de supprimer la chaîne Jeunesse France 4, de fusionner France 5 avec France 2. Le député UDR suggère aussi de revenir, comme avant 2013, à une nomination des dirigeants de l'audiovisuel public par le chef de l'État. Mais ces préconisations pourraient ne jamais être rendues publiques, du moins officiellement. Les parlementaires sont divisés. Pour certains, impossible de mettre à ce document le sceau de l'Assemblée nationale. Un contenu à la rhétorique complotiste, un torrent de boue, juge l'une d'eux. Le rapporteur a été d'une grande mauvaise fois, ça a été un simulacre, ajoute une autre. Mais certains députés plaident, eux, pour la publication du rapport, sans forcément adhérer aux propositions, pour éviter que l'élucidiste Charles Alonque ne se victimise et crie à la censure.
Sonia Gobry, service politique d'RMC. Emmanuel Macron se rend en Ariège aujourd'hui. Déplacement centré sur la réindustrialisation du pays. Il enchaînera par une visite d'État en Andorre. Une façon d'honorer son titre de coprince de ce petit État situé à la frontière espagnole.
On passe au foot avec un gros coup d'arrêt pour l'OM.
Tenu en échec face à Nice au Vélodrome hier soir. Un partout. Les Marseillais sont à 4 points de la place qualificative en Ligue des Champions. Coupe d'Europe qui reprend ses droits demain soir. Énorme choc avant la demi-finale PSG-Bayern Munich, ce sera à 21h. Les Allemands débarquent au Parc des Princes avec un atout dans leur 11 de départ. Il est français, il s'appelle Michael Olise. Valentin Jamin, l'international français, a conquis les cœurs à Munich.
Oui, dans ce bar où se rassemblent les supporters, les soirs de match, des écharpes, des photos, des drapeaux sur les murs et des fans avec leurs maillots. Certains l'ont floqué, Michael Olise.
He's even the best player in the world.
Un des meilleurs joueurs du monde pour Richard.
In his form now.
Dans cette forme, il est le numéro 1. Il est déterminant dans toutes les compétitions. Son dernier but contre le Real Madrid était parfait. Le football a besoin de gars spéciaux comme lui.
Décisif en moyenne une fois par match, le Français est indispensable et éblouit Clément, franco-allemand qui porte son écharpe rouge.
Je peux même pas dire à quel point il est important pour nous. Le danger qu'il crée, j'ai pas vu ça beaucoup.
L'an dernier, l'attaquant a été élu meilleur joueur du club par les fans. Dans les boutiques du Bayern, sur les publicités, il est mis en avant malgré son attitude parfois nonchalante, explique Christian Falk, qui anime le podcast Bayern Insider.
Il parle rarement aux médias, mais est gentil avec les supporters. Il n'est pas leader avec les mots, mais sur le terrain et dans le vestiaire, il est blagueur. C'est lui qui met la musique.
Et en Allemagne, certains le mettent même parmi les candidats au Ballon d'Or.
Et les courses, c'est à Bordeaux, Le Bouscat.
Oui, départ à 13h55, le favori de la Dream Team RMC, c'est le 5, Grande Passe Seine, et l'outsider est le 10, Sir Crater.
Merci beaucoup Thomas Becker, c'était le journal, 7h38.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et avec vous au 32-16, ce fast-food de la Discorde. On est à Saint-Ouen, au nord de Paris. Une enseigne Master Poulet fraîchement installée. Problème, le maire, Karim Bouamran, n'en veut pas. Il avance l'argument de la malbouffe contre l'installation de ce Master Poulet à Saint-Ouen. Christophe est en ligne avec nous depuis l'Hérault. Bonjour Christophe.
Bonjour Mathieu.
Soyez le bienvenu. Vous êtes vigneron et éleveur. Vous êtes dans la volaille ou pas du tout, Christophe?
Non, moi je suis dans le cochon.
Dans le cochon, d'accord. Ces enseignes de fast-food qui s'installent, vous êtes sensible à l'argument du maire de Saint-Ouen?
Je suis surtout sensible au monde agricole français qui subit la concurrence déloyale de ces produits. Parce que j'aimerais savoir de la destination, enfin, d'où viennent ces animaux, dans quelles conditions ils sont élevés, dans quelles conditions les salariés travaillent, dans quelles conditions ces animaux sont abattus. Voilà, j'aimerais savoir tout ça.
Après, vraisemblablement, la vente de poulet étranger à bas prix, je vous suis, hein, Christophe, on a parlé beaucoup du poulet ukrainien ces dernières années, c'est légal. Hein.
Ah non, mais que ce soit légal, bien entendu, mais pourquoi est-ce que nous, on nous impose des normes qu'on n'applique pas aux produits qui traversent la frontière?
Et Christophe, c'est très sensé, en tout cas sur la viande que l'on consomme ici, les normes
appliquées à l'étranger. Mais c'est sur la viande, c'est sur les légumes, c'est sur les fruits.
Bah, je devine bien, c'est l'éleveur qui parle, et peut-être un peu moins le viticulteur. Mais l'éleveur, en tout cas, il est confronté justement à ces importations de l'étranger. On a eu pas mal de messages sur ce sujet-là, Christophe, sur cette enseigne Master Poulet qui veut s'installer à Saint-Ouen.
Et l'incompréhension de Christian qui nous dit qu'il adore Karim Bouamran, mais qu'il ne comprend pas pourquoi cibler Master Poulet et pas le Burger King, par exemple, qui est juste en face et qui doit faire bien pire, sinon pareil en matière de matière grasse et de malbouffe. On a Ludo, lui, qui nous dit ces mères qui se croient chez eux, sans déconner, ça ressemble à une vengeance étatique. Ludo, qui est moins fan de cette idée.
Alors Christophe, mais d'un mot, c'est le rôle du maire d'empêcher l'installation d'une enseigne?
Ben, le maire, c'est le premier agent de police de sa commune, donc commençons par eux, oui.
Oui, il peut choisir la nature des produits qui sont vendus dans sa commune. À vos yeux, ça vous choque pas?
Ben, s'il fait pas d'arbitrage, en fait. Il faut que ce soit tout, toute la malbouffe qui soit censurée.
Mais je pense que le message de Christophe sur RMC Story, on voyait en arrière-plan un Burger King juste en face. Merci Christophe. Merci, c'est le message de Christian, pardon. Vous, c'est Christophe, depuis l'Hérault ce matin, au 32-16. Merci de nous avoir appelés en direct ce matin sur RMC. Il est 7h40. Faut-il publier le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public ou faut-il carrément l'enterrer, l'envoyer aux oubliettes de l'Assemblée? C'est ce qui se décide aujourd'hui. Aujourd'hui, épilogue de 6 mois de travaux, 238 auditions, des fuites dès vendredi. On en parle dans un instant avec mon invité, c'est le rapporteur de ce texte, l'auteur du rapport, Charles Alonque, député UDR de l'Hérault. A tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin,
Mathieu Béliard.
Bon réveil à toutes et à tous à l'écoute d'RMC. Il est 7h41. Après 6 mois de travaux, la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public touche à sa fin. Les 30 députés de cette commission se réunissent tout à l'heure pour décider de publier ou de ne pas publier le rapport rédigé par notre invité ce matin. Bonjour Charles Alonque.
Bonjour.
Merci. Vous êtes député. Merci d'être venu ce matin. C'était pas évident, vous allez comprendre, je vais l'expliquer à nos auditeurs. Vous êtes député UDR de l'Hérault, rapporteur de cette commission d'enquête sur l'audiovisuel. Je dis merci d'avoir accepté notre invitation parce que normalement, entre la rédaction, la lecture du rapport et le vote qui doit se tenir aujourd'hui, normalement vous êtes tenu au silence, sauf qu'il y a des fuites depuis vendredi.
Alors, je pourrais pas vous dire ce qu'il y a dans le rapport, contrairement d'ailleurs à un certain nombre de députés de gauche et macronistes qui, depuis 3 jours à l'envi, sortent un certain nombre de recommandations. Matinent aussi ça de beaucoup de fausses informations, de fake news, dans le seul but de discréditer le rapport. Vous voyez, la mécanique est assez simple. Des députés sortent des fausses informations, alimentent un climat qui justifie un vote défavorable cet après-midi. Et s'il y a vote contre cet après-midi, le rapport ne sera pas publié. Et alors, on ne pourra pas
vous
dire ce qu'il y avait vraiment
pour pouvoir
dans
voter
le rapport.
Contre et ne pas connaître ce qu'il y avait dedans. Alors, de ce qui est ressorti, vous préconisez 1 milliard d'économies. Je ne sais pas si vous allez me dire oui ou non.
Je ne peux pas vous parler du fond du rapport. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été très choqué de voir beaucoup de fausses informations circuler qui préparent.
Les fusions de chaînes, par exemple, ou suppression de chaînes.
Par exemple, on m'expliquait que je voulais la fin du Tour de France, la fin des Six Nations, la fin de Roland Garros sur le service public. Et je dis tout l'inverse dans mon rapport.
Donc, j'ai envie de rétablir du budget sport de France.
J'ai envie de rétablir un certain nombre de vérités.
C'est quoi tout l'inverse, Charles Alonque?
Tout l'inverse, c'est que dans mon rapport, par exemple, j'explique, et si je vous le dis, c'est aussi pour démentir un certain nombre de fake news, j'explique que le Tour de France, Roland Garros et Six Nations sont des monuments quasiment nationaux qui font l'exception sportive et culturelle, qu'il faut les préserver sur le service public. Je vous donnais un autre exemple, c'est par exemple, depuis plusieurs jours, dans tous les médias, des médias complaisants, on explique que je voudrais que le président de la République soit le seul décideur pour la nomination des présidents d'entreprises publiques comme Radio France et France Télévisions. Je dis d'une certaine façon une chose très différente. J'explique qu'il faut plus de démocratie, qu'il faut que l'Assemblée et le Sénat se saisissent aussi de ces décisions. Donc, encore une fois, de ce que je peux lire dans les médias depuis 3 jours...
Mais quand même, c'est une proposition du président ou pas? Parce que j'avais prévu la question à la
fin. Mais c'est extrêmement important que l'Assemblée nationale et le Sénat se prononcent dans le cadre d'un vote. Donc, vous voyez, c'est très différent d'une décision autoritaire et verticale du seul président de la République.
Ce serait quoi? Ce serait nomination par le président de la République et vote de validation par le...
Je contreviendrai au règlement, à la différence de beaucoup de députés qui ont fait fuiter des recommandations. Ce que je peux vous dire, c'est ce que vous lisez à certains égards dans la presse depuis 3 jours, il y a beaucoup de fausses informations pour discréditer ce rapport et préparer aussi des justifications pour voter contre. Et s'il y a vote contre, personne ne pourra révéler ce qu'il y avait ou non dans le rapport. Donc c'est une mécanique bien huilée qui est là aussi pour préparer la censure.
Vous êtes en train de faire, et c'est ce que vous avez pu dire déjà ce week-end, vous fustigez des pressions de députés de gauche et macronistes, la diffusion de fake news pour discréditer ce rapport et justifier donc un vote défavorable. Le président de la commission d'enquête parlementaire appelle lui à la plus grande retenue et il vous vise directement. Il regrette vos interventions médiatiques, votre participation samedi à une réunion à l'Assemblée consacrée à France Télé. Personne n'a respecté les règles du jeu, Charles Alonque.
Non, pour vous dire, c'était un colloque interne organisé par Jean-Philippe Tanguy où il n'y a eu aucune révélation. Donc un colloque qui était destiné simplement à quelques adhérents d'un mouvement politique où il n'y a eu aucune révélation qui a été faite. Donc tout ça, en fait, toutes les polémiques, toutes les justifications seront bonnes pour expliquer cet après-midi pourquoi certains députés ont voté contre la publication du rapport. Et Moi, je ne comprends pas pourquoi le président de la commission d'enquête, macroniste, explique, j'ai cru lire dans les colonnes du Figaro hier, qu'ils seront d'accord pour publier simplement les recommandations du rapport, mais pas les constats, pas les états de dérive, de défaillance, de dysfonctionnement, alors que les deux sont importants. J'ai rédigé un rapport de près de 400 pages, je trouve ça scandaleux. Alors, on commence à faire monter un chantage pour dire, il n'y a que les recommandations qui pourront être publiées, par exemple, mais pas les constats, les dysfonctionnements. Et je m'étonne même, et je finirai là, pardon, je m'étonne même que la publication d'un rapport soit soumis à un vote. On est quand même en démocratie. Ces recommandations sont là aussi pour donner de la matière à réflexion et de la matière
c'est
à débat.
Le fonctionnement des commissions, même
c'est
si c'est
le fonctionnement,
très,
mais on peut s'interroger.
C'est rarissime qu'un rapport ne soit pas publié.
Il y a beaucoup de Français qui me disent mais pourquoi la seule publication d'un rapport serait soumise à un débat ? On a envie de savoir aussi ce que vous proposez.
Jeu, quand vous décidez de cette commission, enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est la règle du jeu.
Ah non, mais c'est la
changer,
règle du jeu.
On peut estimer qu'il faut la changer, mais pour l'instant.
Mais il n'y a eu qu'un seul précédent dans l'histoire de l'Assemblée où le vote, la publication d'un rapport n'a pas été admise, donc c'est extrêmement rare. Et de voir une telle pression pour expliquer qu'il faudrait censurer à la fois le rapport et l'ensemble des travaux, je vous avoue que ça me dépasse. Ce sont des gens qui ont un problème avec la démocratie, avec le pluralisme.
Je voudrais que vous puissiez leur répondre, parce qu'il y a plusieurs députés qui sont cités, alors parfois nommément, parfois c'est anonyme, mais je vous mets quelques citations. On parle d'un contenu à la rhétorique complotiste, un torrent de boue en parlant de votre rapport, la pagination est mal faite, je passe sur les critiques de forme.
C'est drôle.
C'est la probité de nos institutions qui est en jeu. Ce sont des citations de députés. D'ailleurs, c'est même pas le rapport, le problème, c'est vous. Le rapporteur a été, je cite, d'une grande mauvaise foi, ça a été un simulacre. On ne peut pas poursuivre ce type de dévoiement d'un outil parlementaire comme celui-là.
Ah mais je trouve ça très drôle parce qu'effectivement, alors il s'attaquerait à la numérotation des pages, aux marges sur le document, à la pagination,
ça,
aux sous-titres qui ne sont pas soulignés. Et après, bon, il s'attaque à moi. Mais comme ils se sont attaqués avant même la création de cette commission d'enquête, il y a eu un front massif des députés de gauche et macronistes qui se sont opposés à la création de cette commission d'enquête, alors que dans l'histoire, dans la coutume de l'Assemblée, chaque groupe d'opposition chaque année dispose d'une commission d'enquête du thème de leur choix. Donc ce sont des gens qui ont un problème fondamental avec la démocratie, avec le pluralisme, qui jusqu'au bout feront tout pour essayer de censurer la vérité et aussi faire
vous
preuve de la plus grande opacité.
Vous pensez qu'aujourd'hui ils vont voter pour que ce rapport ne soit pas publié?
Moi je fais confiance, quels que soient les bords politiques et un sens de la responsabilité des députés. Je pense qu'ils voient que massivement les Français sont pour la publication de ce rapport et quelque chose me dit qu'à la fin, on arrivera à trouver un terrain d'entente. Moi, je ne me soumettrai pas à ce chantage qui consiste à supprimer des pans entiers de ce rapport.
Je précise juste pour nos auditeurs, c'est que le problème, c'est que les auditeurs, les députés de la commission ne se prononcent pas sur pour ou contre la publication. Ils se prononcent dans ce vote sur le fond du rapport. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu de cette commission et des travaux de ces 6 mois d'audition. Ce qui est ressorti, vu de l'extérieur, honnêtement, c'est parfois un grand cirque. Des auditions mouvementées, Xavier Niel, Nagui, Vincent Bolloré, Patrick Cohen, quelques extraits.
Merci pour l'invitation, mais je ne suis pas un clown.
Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Je soupçonne Nagui de dérives scandaleuses par centaines de millions depuis des années.
Que l'espionnage déguisé en journalisme est appelé à prospérer sur les antennes du groupe Bolloré.
Les 4 milliards, c'est beaucoup à un moment où la France est quand même en difficulté.
Pardon, il y a un président de cette commission enquête, c'est moi, d'accord ?
Tout ça pour quoi ? Est-ce que vous avez voulu vous faire France Télé ?
Vous savez, demander des comptes à l'audiovisuel public, ce n'est pas régler ses comptes avec l'audiovisuel public. Il va falloir qu'un certain nombre de personnes s'habituent aussi à rendre compte, à répondre aux questions pour essayer d'expliquer comment ils utilisent l'argent des Français. L'audiovisuel public, c'est 4 milliards d'euros par an. C'est pas anodin. C'est la moitié du budget du ministère de la Culture. Et je n'ai jamais dit que je souhaitais la privatisation.
Vous êtes
bien
au contraire. C'est pour ça que
j'ai expliqué. Au contraire, j'ai expliqué depuis le premier jour de cette commission d'enquête que j'étais là pour mettre en lumière les dérives, les dysfonctionnements qui frappent depuis des années l'audiovisuel public pour mieux sauver ces missions précieuses. Mais vous voyez, il y a eu beaucoup de campagnes de calomnie, de diffamation, organisées notamment par le président macroniste de cette commission d'enquête, qui, de façon diffamatoire, m'a rangé dans le camp des ardents défenseurs de la privatisation. Ce que j'ai toujours dénoncé.
Vous dites, ce n'est pas le
Moi,
cas.
Je pense que mettre la poussière sous le tapis, mettre le couvercle sur ces travaux, c'est condamner, c'est mieux condamner définitivement ces entreprises qui sont quand même au bord du précipice financier. Donc ces travaux ont un sens aussi pour sauver l'émission de l'audiovisuel.
Un dernier mot, au-delà des questions de forme qu'on a pu poser, selon Le Monde, la direction des affaires institutionnelles du groupe d'Arnaud Lagardère, groupe qui est contrôlé par Vincent Bolloré qu'on vient d'entendre, a envoyé des listes de questions à des députés avant leurs échanges avec des auditionnés. Vous avez reconnu, en expliquant que c'est complètement normal, une forme de lobbying avant qu'on travaille un texte de loi ou sur le cadre d'une commission. Est-ce que vous avez reçu ces questions suggérées ?
Alors, j'ai reçu, comme le président macroniste, ces questions, comme un certain nombre de députés. Et vous savez, c'est vieux comme l'Assemblée. Le lobbying, les affaires publiques, c'est vieux comme l'Assemblée. Dès qu'on vote un texte en période budgétaire, par exemple, vous avez des syndicats, des représentants de salariés, des institutions, des organisations qui envoient sur votre boîte publique mail de l'Assemblée un certain nombre de contributions.
Est-ce que pendant ces 6 mois d'audition, vous échangiez, vous, à titre personnel, en privé avec Vincent Bolloré?
Non, absolument pas. Je ne l'ai jamais rencontré. D'ailleurs, il l'a dit sous serment, je ne le connais pas. Et si j'avais été un émissaire de Monsieur Bolloré, je ne me serais pas intéressé à la deuxième société de production à bénéficier des contrats de France Télévisions, Banijé. Je ne me serais pas intéressé au cas de Monsieur Nagui, qui est co-actionnaire de Banijé, à Takis Candilis, qui a fait une navette entre France Télévisions et Banijé, parce que Monsieur Bolloré est actionnaire de Banijé. Donc, si j'avais été un émissaire de Monsieur Bolloré, je ne me serais pas intéressé au cas parfois problématique de cette deuxième société de production à bénéficier des contrats de France Télévisions.
Charles Alloncle, on verra ce que feront les 30 députés de cette commission d'enquête parlementaire, publieront pas ce rapport. C'est à 14h30 la réunion tout à l'heure. Je ne sais pas si elle sera houleuse comme l'étaient les commissions en public. Charles Alloncle, député UDR et rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public.
Merci à vous.
Merci d'être venu répondre à nos questions ce matin. Il est 7h51. Et dans un instant, la voix de droite d'RMC, c'est vous, Louis Sarkozy. Louis, on va rester à l'Assemblée, puisque la France Insoumise participera à la réunion sur le projet de loi contre l'antisémitisme.
Oui, je ne suis pas convaincu par la présence de pompiers pyromanes à cette réunion. Peut-être on peut inviter l'ambassade iranienne pour un colloque sur les droits des femmes la semaine prochaine.
A tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 et tiens, on va reparler d'audiovisuel public.
Oui.
On vient d'en parler, mais ça ne fait pas uniquement l'objet de rapports parlementaires. Élise, l'audiovisuel se raconte aussi désormais en chanson.
Une chanson signée Patrick Sébastien. Elle ouvre le deuxième volet de son album Olé Osé, sorti vendredi, et elle s'intitule Delphine.
Bon ben là, j'ai une chanson un peu spéciale, mais je sais pas si je vais la faire.
Alors, chanson qu'il a hésité à sortir, dédiée à la patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte, avec laquelle l'ancien animateur de la 2 est en conflit ouvert depuis son éviction en 2019. Et on peut pas dire qu'il y soit allé de main morte. Delphine, si tu avais connu ma pine, on reconnaît la signature de Patrick Sébastien, sauf que ça n'est pas du tout du goût de Delphine Ernotte, qui a annoncé porter plainte contre son ancien salarié pour outrage sexiste et sexuel. Patrick Sébastien qui sera l'invité des Grandes Gueules ce matin sur RMC. On verra ce qu'il aura à dire à cette annonce de plainte.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
Il est 7h54 sur RMC et RMC Story. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Mathieu.
La France Insoumise, vous êtes notre voix de droite ce matin comme tous les lundis. Louis, la France Insoumise participera finalement à une réunion parlementaire sur le projet de loi contre l'antisémitisme. Leur présence était jusqu'ici hypothétique, d'autant que le parti s'était opposé à la proposition de loi Yadan, finalement retirée de l'agenda parlementaire il y a quelques jours. Et vous, Louis, pour vous, ce revirement, est-ce qu'il vous convainc ?
Mathieu, la France Insoumise participe à un projet de loi contre l'antisémitisme. La France Insoumise participe à un projet de loi contre l'antisémitisme. On aura décidément tout entendu. Pourquoi ne pas organiser, tant qu'on y est, un colloque sur le droit des femmes avec l'ambassade d'Iran, une conférence sur l'autodétermination des peuples avec Vladimir Poutine?
Ça vous fait réagir, mais au fond, c'est quand même mieux qu'il s'associe à la bataille contre l'antisémitisme à l'Assemblée.
Oui, que cette bataille, ce fléau qu'il participe notamment à propager. Mathieu, soyons parfaitement clairs, la France Insoumise n'est pas juridiquement un parti antisémite. Aucun tribunal ne l'a déclaré tel, mais elle en porte tous les uniformes. Elle en parle la langue. Elle en colle les affiches, elle coche toutes les cases, fait tout comme et tout pour.
C'est une accusation grave. Sur quoi est-ce que vous appuyez, Louis ?
Sur une définition, celle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, adoptée par plus de 30 pays. Cette définition dit en substance, nier le droit du peuple juif à disposer d'un État, prétendre que l'existence d'Israël est en soi un crime, c'est de l'antisémitisme. Critiquer Netanyahou, c'est de la politique. Vouloir effacer Israël de la carte, c'est autre chose.
Mais LFI dit ne critiquer que la politique d'Israël et pas les Juifs directement.
Bien sûr, c'est la phrase magique qu'on entend à longueur de journée. Sauf que la France Insoumise ne critique pas seulement la politique d'Israël, elle conteste sa légitimité même. Ses dirigeants ne demandent pas seulement un cessez-le-feu. Ils vont jusqu'à remettre en cause l'existence même du seul État juif du monde. Étrangement, ces mêmes responsables ne manifestent jamais pour le Ouïghour de Chine, jamais pour les Yéménites massacrés, jamais pour les Tchétchènes. Un seul pays sur près de 200 leur arrache des cris, inspire leur diatribe, provoque leur raillerie. Celui des Juifs, c'est une obsession, et cette obsession a un nom.
Vous avez des exemples concrets ?
J'en ai des pelletés, Mathieu. Février 2026, Jean-Luc Mélenchon, en plein discours, fait mine de buter sur le nom d'Epstein. Ah, vous voulez dire Epstein ? Pardon, ça fait plus russe. Une blague sur la consonance des noms juifs. 80 ans après Vichy. Mars 2025, LFI publie une affiche de Cyril Hanouna, sourcils froncés, nez accentué, rictus haineux. Le juge des référés a écrit que cette image était perçue comme rappelant les affiches antisémites des années 30 et des années 40. Le parti a été condamné. Juin 2024, Mélenchon écrit que l'antisémitisme reste résiduel en France au moment où les actes antisémites explosent. Ça fait beaucoup pour un hasard.
Et les déclarations de Rima Hassan ?
Rima Hassan, c'est le manuel. Avril 2026, en garde à vue pour apologie du terrorisme après un tweet mettant en avant Kozo Okamoto, un terroriste japonais auteur d'un attentat en Israël en 1972. Mai 2025, tweet sur l'Eurovision où elle associe Israël et l'argent. Monnaie, 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 tweet-elle. Tweet une députée européenne, réveillant un cliché vieux de 1000 ans. Avant cela, des insinuations selon lesquelles le CRIF dicterait sa parole aux ministres françaises des Affaires étrangères. Soit, pour ceux qui ne connaissent pas trop leur histoire, la vieille théorie du complot juif mondial, recyclée pour Twitter et par la France insoumise.
Alors, LFI répond que c'est une cabale, qu'on confond critique d'Israël et antisémitisme.
Mais cette confusion, c'est eux qui la cultivent. Ils brandissent l'anticolonialisme pour ne plus avoir à prononcer le mot juif et le mot sionisme pour pouvoir dire ce qu'ils n'osent plus écrire. Vladimir Yankelevitch, le grand philosophe français, l'avait vu déjà en 1971. Il écrivait, je cite, « L'antisionisme est une aubaine inespérée car il nous donne la permission d'être démocratiquement antisémite. »
Alors vous parlez de Vichy, des années 30, de Kéfié, vous n'allez pas un peu loin, Louis ?
Mais Mathieu, les mots ont un sens. L'histoire a une mémoire. La France n'a pas le luxe ici de l'amnésie. N'oublions pas pourquoi ce projet de loi existe. Parce qu'en 2026, en France, l'antisémitisme ne porte plus seulement la chemise brune. Il porte aussi le keffieh et envoie des tweets. Il siège à l'Assemblée nationale et au Parlement européen. Il se revendique républicain et démocratique. Mais au fond, c'est le même depuis toujours. L'antisémitisme est un cancer. Soit on l'excise, soit il nous tue.
Louis Sarkozy, la voix de droite d'RMC le lundi matin. Demain, on retrouvera Cécile Duflo, notre voix de gauche, à la même heure, à la même place. Dans un instant, la météo et le journal de 8h. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est déjà 8h01 sur RMC. Un excellent réveil à toutes et à tous.
RMC, Apolline Matin.
Il est l'heure d'accueillir Quentin Vinet pour le journal de 8h. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Pourra-t-on prendre l'avion normalement cet été pendant les grandes vacances ? La question se pose plus que jamais. Maintenant que Transavia annonce l'annulation de 2% de ses vols pour mai et juin, info RMC face à la flambée des prix du kérosène. Nous vivons dans un monde de fous. Qui dit ça ? Eh bien c'est Donald Trump, après les tirs au gala de la presse ce week-end aux États-Unis. Et alors ce qui est fou, c'est la deuxième place de Paul Sexas hier sur Liège-Bastogne-Liège, un des monuments de la saison en cyclisme. On sera en direct de Belgique dans ce journal avec une question. Est-ce que Paul Sexas va faire le Tour de France ?
Les craintes deviennent concrètes ce matin dans le secteur de l'aérien.
Oui, avec cette info donc qu'on vous révèle depuis hier soir sur RMC, Transavia, compagnie aérienne française qui supprime des vols face à la flambée du kérosène, à savoir le carburant des avions, Sarah Bélia.
Oui, Transavia nous a confirmé l'annulation de 2% de ses vols pour mai et juin 2026. Les clients concernés verront leur vol soit reporté sans frais, remboursé ou bénéficieront d'un avoir. En tout, ce sont 19 des 20 principales compagnies aériennes mondiales qui prévoient de réduire leurs vols sur le mois de mai. En cause, le blocage des raffineries qui produisent le kérosène au Moyen-Orient. Les importations baissent, le prix du carburant est multiplié par deux, donc le prix des vols augmente de 10% en moyenne, ce qui forcément dissuade les voyageurs, comme nous l'explique Marc Crochet, président du cabinet de conseil aérogestion.
Aujourd'hui, les gens ne réservent pas pour voyager. Ils sont dans l'attentisme. Forcément, les compagnies aériennes ne peuvent pas attendre la dernière minute. Et donc, d'ores et déjà, ce que vous avez cité dans le cas de Transavia, je dirais pas qu'il y ait des annulations massives, mais il y a une régulation des vols. On met un peu moins de vols parce qu'on sait qu'il va y avoir un peu moins de passagers.
Selon lui, cette régulation se fera en fonction des destinations. La hausse des prix devrait se stabiliser dans les prochains mois. La meilleure option pour les voyageurs reste d'anticiper.
Alors aujourd'hui, ce sont les ambulanciers qui seront reçus au ministère de la Santé qui demandent plus que les aides étaient bloquées jusque-là par le gouvernement. La situation ce matin, c'est des prix qui augmentent depuis une semaine. Quand on regarde les relevés du site carbu.com, plus 4 centimes pour le sans-plomb, plus 3 centimes pour le gazole et le pétrole qui est passé cette nuit au-dessus des 107 dollars le baril. Ça y est, on est de retour à des niveaux très élevés en réaction à la situation au Moyen-Orient où les discussions États-Unis-Iran n'ont pas repris durant le week-end. L'Iran est même en plein ballet diplomatique pour obtenir des soutiens. Aujourd'hui, il y a le chef de la diplomatie iranienne qui sera reçu par Vladimir Poutine en Russie. Cette déclaration, donc, ce matin de Donald Trump, nous vivons dans un monde de fous. Voilà ce que dit le président américain dans une interview à la télé aux États-Unis au surlendemain des tirs et du chaos, surtout au traditionnel gala de la presse qui se déroulait à Washington. Le président américain a dû être évacué. Romain Houk pour RMC en direct ce matin. C'est aujourd'hui que le tireur va comparaître devant la justice américaine. On a un peu plus d'infos sur lui et sur ses intentions ce matin.
Oui, le suspect s'appelle Cole Thomas Allen, 31 ans, et peu de temps avant de passer à l'acte, il envoyait un manifeste à sa famille, un texte dans lequel celui qui se surnomme lui-même l'amical assassin fédéral disait vouloir s'en prendre à Donald Trump et à son administration. Il critique sa politique migratoire, mentionne les morts civiles dans les guerres où sont impliqués les États-Unis. Il évoque aussi l'affaire Epstein. Donald Trump parle d'un texte très antichrétien, écrit par quelqu'un de très dérangé, avec de gros problèmes dans sa vie. On ne lui connaît pas pour l'instant d'affiliation politique, mais selon la presse américaine, il a fait un don de $25 en 2024 à la campagne présidentielle de la candidate démocrate Kamala Harris. Un suspect jusqu'ici inconnu de la police et professeur à temps partiel en Californie. C'est d'ailleurs depuis Los Angeles qu'il a pris le train et traversé le pays de bout en bout afin d'éviter les contrôles aux aéroports. C'était un client de l'hôtel Hilton où avait lieu le gala, lourdement armé. Selon la police, il était équipé d'un fusil et d'un pistolet, tous deux achetés légalement en 2023 et en 2025, ainsi que de nombreux couteaux.
Alors malgré ça, la visite du roi d'Angleterre aux États-Unis est bien maintenue, là, en ce début de semaine, en pleine brouille diplomatique entre les deux pays. Emmanuel Macron, lui, sera en Andorre aujourd'hui, après un déplacement en Ariège, ce matin, sur le thème de la réindustrialisation, en visite notamment dans une usine qui va rouvrir en fin d'année. Je vous signale qu'il y aura bien un procès, 4 ans après l'assassinat du nationaliste corse Ivan Colonna, vous en souvenez, à la prison d'Arles. Le détenu radicalisé qui l'a tué a été renvoyé devant les assises. Et alors ce matin, depuis 6 heures précisément, les surveillants de prison sont appelés à faire grève et même à bloquer leurs établissements par deux de leurs syndicats pour dénoncer le manque de personnel face à la surpopulation carcérale qui est estimée à 230%. Chiffre qui retient notre attention forcément, Julie Brault, à la maison d'arrêt de Chambéry.
63 places pour 150 détenus entassés dans les cellules sur des matelas au sol. Ces conditions de détention dégradées rendent les prisonniers agressifs et dangereux, alerte Emmanuel, surveillante à la maison d'arrêt de Chambéry.
Imaginez bien à 3 ou à 4 dans 9 mètres carrés, l'agacement, l'énervement, bagarre entre détenus. Donc qui dit bagarre dit des extractions médicales d'urgence.
Une tension qui se répercute sur les surveillants, forcés de redoubler de vigilance malgré leur sous-effectif.
On n'a plus le temps, on court partout, c'est oppressant. C'est stressant. Ça peut être des collègues qui font aussi des burn-out parce que ils en peuvent plus, ils craquent et c'est une chaîne sans fin.
On est au bord de l'implosion, déplore Wilfried Fonck, secrétaire national UFAP UNSA Justice, qui demande au gouvernement de combler les 5000 postes vacants dans les prisons françaises.
Non pas 5000 postes qu'il faut créer, mais des postes qui existent déjà, mais qui malheureusement ne sont pas couverts parce que nous n'avons pas la ressource humaine nécessaire pour pouvoir le faire. On sait qu'on court à la catastrophe et que là, aujourd'hui, ça suffit.
Sans mesure d'urgence, le blocage national va se prolonger, prévient d'ores et déjà le syndicaliste.
Et puis alors la question est sur toutes les lèvres ce matin. Paul Sexas sera-t-il au départ du Tour de France cet été ?
Oui, vous avez bien compris qu'on était en train d'assister à l'avènement du prodige de 19 ans du cyclisme français qui monte les marches deux par deux en ce moment en étant impressionnant à chaque fois. Hier encore, en terminant deuxième de Liège-Bastogne-Liège, un des 5 monuments, comme on dit, de la saison en cyclisme et surtout en accrochant le Slovène Tadej Pogacar jusqu'à 14 km de l'arrivée. Tout ça, c'est énorme. Maria Azé, vous êtes encore en Belgique ce matin en direct. C'est vous qui avez commenté la course hier sur RMC. Tout le monde attend de savoir s'il va faire le Tour de France maintenant.
Oui, il va falloir attendre encore un petit peu hein, parce que la décision ne devrait pas être annoncée avant la semaine prochaine puisque Paul Sexas part en vacances toute cette semaine pour se reposer après ce gros bloc de course. Pendant ce temps, Décathlon CMA CGM analysera une dernière fois ses données de performance. Même si le coureur de 19 ans a une capacité de récupération impressionnante, il n'a participé au maximum qu'à des courses d'une semaine et le Tour de France en dure 3. La décision sera donc prise en accord avec Paul Sexas en fin de semaine. Lui veut prendre le départ de la grande boucle. Il sait désormais qu'il peut concurrencer les meilleurs et notamment le quadruple vainqueur du Tour, Tadej Pogacar. Difficile donc de ne pas l'imaginer au grand départ de Barcelone le 4 juillet, d'autant plus que le Français partira 2 semaines en altitude en Sierra Nevada espagnole au mois de mai, puis devrait s'aligner sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement Dauphiné début juin, une préparation typique d'un coureur qui part pour le Tour de France.
En direct de Belgique pour RMC ce matin. J'ai deux autres infos à vous donner en sport. D'abord le foot. Marseille à 4 points du podium ce matin en Ligue 1. La qualification en Ligue des Champions semble compromise pour l'OM. On est au lendemain du match nul 1 partout. C'était contre Nice qui de son côté s'éloigne de la place de barragiste. Et puis la course aux phases finales, plus indécise que jamais en top 14 de rugby. Après le gros coup, très gros coup même de Clermont qui allait gagner à Toulouse 27 à 24. C'est plus qu'une piqûre de rappel. Voilà ce que dit l'entraîneur toulousain Hugo Mola. On est à 4 journées de la fin. Il y a 10 points d'écart seulement entre le deuxième Pau et le neuvième La Rochelle.
Merci beaucoup Quentin Vinet. C'était le journal de 8h sur RMC et RMC Story.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Et on parle d'économie avec vous Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Nouvelle conséquence du conflit en Iran, le prix du lait pourrait augmenter dans les prochaines semaines.
Oui, hein, c'est sûr que...
Il manquait plus que ça.
Mais c'est sûr que dit comme ça, on a du mal à faire le rapprochement entre conflit au Moyen-Orient et augmentation du prix de la brique de lait.
Parce que le lait, on le prend en Mayenne, on l'envoie à Hormuz.
Bien sûr, on fait beaucoup d'allers-retours en avion et ensuite ça augmente. Non, vous allez voir, c'est précisément ce qui nous attend. Depuis le début du conflit, le cours du pétrole a flambé et par un effet de vase communicant, le prix du gazole non routier, celui qu'on le met dans les tracteurs, a lui aussi augmenté. Avant la crise, son prix était compris entre 580 et 620 euros la tonne. Et aujourd'hui, il oscille entre 1200 et 1300 euros. Il a doublé, selon Johan Barbe, président de la Fédération nationale des producteurs de lait, ce qui aura automatiquement une répercussion sur le coût de production et donc sur son prix.
Mais je comprends pas. Il y a quelques mois, on nous annonçait un arrêt de l'inflation alimentaire.
Bah, c'est toute la magie du commerce international. Pendant deux ans, entre 2023, c'est magique. Entre 2023 et 2025, le cours du lait sur les marchés avait augmenté, dépassant les 500 euros les 1000 litres. Et que font les producteurs lorsque le prix augmente? Ils augmentent leur production pour augmenter leur marge. Rien qu'en France, la hausse avait été de 2,2% en 2025. Et que se passe-t-il si la production augmente plus vite que la demande? Eh bien, les prix baissent. On a glissé sous les 460 euros les 1000 litres, ce qui devait être une bonne nouvelle.
Mais
ce n'est plus le lait qui coûte cher, c'est sa production avec la hausse du cours du pétrole. Et il va falloir répercuter cette hausse sur le prix du lait, puisque les producteurs perdent de l'argent. La Fédération nationale des producteurs de lait demande tout simplement une augmentation rapide et immédiate de 50 euros sur la tonne. Donc quasiment le même niveau à son pic en 2025. Donc en plus d'avoir une hausse des prix à la pompe, on va avoir une hausse des prix dans les magasins.
Alors justement, on va revenir au prix à la pompe. Pour l'instant, il n'y a pas encore de pompe de lait. On est où bientôt. Ce matin, Pierre Rondeau, on fait les comptes tous les matins.
Le lait augmente et aussi l'essence, puisqu'on était pour un samplon 95 vendredi à 1,97€, on est monté à 1,99€. Le gazole, c'est pareil, 2,17€, ça augmente aussi à 2,18€. Le baril de pétrole, 105$ vendredi dernier, 107$ aujourd'hui ce matin. Il n'y a que le gaz qui baisse très légèrement, puisqu'on était à 45€ vendredi, on est à 44,16€ aujourd'hui.
Merci beaucoup, Pierre Rondeau.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Allez, vous ne bougez pas, vous restez bien sur RMC. Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du Face à Face, c'est Christian Proutot, fondateur du GIGN, qui sera au micro de Marie Chantret sur RMC et BFM TV. Et juste après, Nicolas Canteloup. Face à Canteloup, c'est à 8h50. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h15 et c'est tous les jours lui.
Arnaud tous les jours, avec nous. Tous les jours. Bonjour
ça
pour
va,
cette nouvelle semaine. Ça va et vous? Bonjour la squadra RMC.
Ciao.
Guten Tag la RMC Mannschaft. Ça va les amis?
Ouais.
Alors, on a failli réattaquer la semaine avec un gros bouleversement. Il y a quelqu'un qui a encore voulu tirer sur Donald Trump. Au final, il n'est pas mort. Encore raté, Mélania. C'est bête, hein. Alors, sur les images, on voit un truc marrant. J.D. Vance s'est évacué avant Trump. Vous avez vu ce truc-là?
Oui.
Et après seulement, ils viennent chercher le vieux. Je pense que ces gardes du corps ont dû se dire, attends, le plein d'essence cette semaine, ça m'a encore coûté une blinde. S'il y a une petite chance de faire baisser le prix du litre, c'est maintenant. Va pas trop vite, quoi. Et l'autre image marrante de la soirée, ça m'a fait hurler de rire. Vous l'avez vu? Il y a tous les journalistes qui étaient cachés sous les tables et ils réalisent que le danger est passé. Ils se relèvent et tous, ils se mettent à embarquer les bouteilles de vin et de champagne qu'il y a sur les tables. Ils se cassent avec en disant, bon allez, histoire de pas avoir complètement perdu la soirée. Tu vois, Elisabeth Lévy était dégoûtée de pas avoir été invitée. Enfin voilà, Trump est toujours vivant. Et tiens, tant qu'on parle de pertes irremplaçables, Emmanuel Macron va arrêter la politique. Ouais.
Il l'a dit.
Dans un an.
Il l'a dit à des lycéens pendant une visite officielle à Chypre. Pas de politique après son départ de l'Élysée.
Et priorité au direct sur BFM TV, car notre cher leader va nous abandonner à son triste sort. Emmanuel, grand soleil du 21e siècle. Oh, génie des finances, ne laisse pas ton peuple orphelin, père de la nation.
Voilà, ça c'est ce qu'Emmanuel Macron imaginait en faisant cette déclaration. Et en réalité, ça a été Brigitte. Pourquoi personne parle de mon annonce à la télé? Sur BFM et LCI, ils parlent de Trump et de la guerre et pas de moi. Ben, t'as qu'à mettre CNews. Ok. Et vous êtes bien sur CNews et on va parler des ZFE. Parce que dans les centres-villes, il y a des ZFE partout. Voilà, les ZFE, c'est la gauche. La gauche aime les ZFE. C'est un scandale, les ZFE. Brigitte, ils parlent que des ZFE. Ça doit être le thème de l'émission. On réessaye dans 2 heures. Et 2 heures plus tard. Que pensez-vous des ZFE, Christophe? Oh, les ZFE, c'est pas bien, les ZFE. Ben non, c'est pas bien, les ZFE. Brigitte, ils s'en foutent de mon annonce, ils sont sur les ZFE encore. Je comprends mieux que leurs audiences soient divisées par deux, c'est chiant leur truc.
Alors, on en parlait avec lui à 7h40, le député du rapport, le rapporteur de la commission parlementaire sur l'audiovisuel public, Charles Alloncle, était ici même. Il préconise de supprimer un quart de son budget, notamment un quart du budget de France Télé, notamment 120 millions d'euros pour les jeux.
Ouais, 120 millions au moins. Déjà qu'on gagnait des trucs nazes dans leurs jeux tout cheap, là. Qu'est-ce que ça va être? Les candidats, ils seront assis sur 2 chaises en formica récupérées chez Emmaüs pour gagner des cadeaux nuls.
Jean-Marc, vous avez gagné l'encyclopédie Larousse des revêtements muraux en 26 volumes. Mais on a le budget que pour les volumes A et B. Donc l'acrylique, le bois et le BA13 n'auront bientôt plus de secret pour vous.
Enfin, moi, je veux bien.
Alors, voilà, c'est bien de démarrer par quelque chose. Si on veut se lancer dans une activité manuelle, il faut le faire. Alors, il suggère aussi de fermer France 4. Oh non! Comment on va faire pour regarder, vous savez, le truc qu'il y a sur France 4? France 4, c'est l'appendicite des médias, en fait. C'est vrai que si on te l'enlève, tu peux vivre sans. Et il suggère aussi de réduire d'un tiers le budget des sports du groupe. Donc, les JO, les 6 nations, le Tour de France, Roland Garros. Trop cher. Faudra diffuser des événements moins clinquants. Et bienvenue sur France Télévisions pour ce championnat de France de marche athlétique. Ah, sponsorisé par Orpea. Ah. 53 km avec des boomers qui font de la marche à pied entre Châteauroux et Issoudun. Un bâton de ski, là. Tu sais, ces trucs bizarres. Et les concurrents marchent. On le voit, hein, ils marchent. Ils sont lancés. Ils marchent. Ça y est, ils parlent de leurs problèmes médicaux. On le voit, hein, le concurrent de la boule parle de sa trompe, de la trombose de sa femme avec le concurrent niçois. Il marche, hein. Au milieu d'une ZFE, peut-être. Il marche. On s'ennuie un peu, pour tout vous dire. Allez, partons aux épreuves de crachat de noyaux d'abricot par équipe à Guéret, dans la Creuse. Ou alors non, on va faire un crochet par Montargis pour le championnat de France du cri de cochon. Oh, c'est superbe. Toutes les émotions du sport. Bon, on fait ce qu'on peut pour vous le vendre, hein. Désolé, c'est pas très intéressant, mais c'était pas cher. Et alors, on le sait moins. Mais dans son rapport, Charles Alloncle propose aussi d'exorciser les locaux de France Télé et de Radio France.
Va des rétros! Va des rétros, esprit islamo-gauchiste de Nathalie Saint-Cric!
Tu ne me feras pas partir! Ton Ciotti suce des bites sur CNews!
Au nom de Bolloré, notre seigneur, quittez ce bureau, démon de bolchevique!
Il va asperger dans les couloirs Laurent Delahousse avec de l'obéinix.
Oh non! Ma mèche est foutue, mais chiant ce type.
Donc on verra, il y a plein de propositions. Et à demain.
Merci beaucoup Arnaud Demanche, qu'on retrouve évidemment quand on veut en podcast sur l'application RMC. On va accueillir Laurence, qui nous appelle d'Indre-et-Loire ce matin. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Alors accrochez-vous Laurence, j'ai un Pierre Rondeau tout frais, tout beau pour vous en studio. Laurence, vous êtes productrice de lait.
Hein? Exactement.
Vous avez écouté la chronique Éco avec Pierre Rondeau il y a un petit quart d'heure.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Alors les prix chez vous?
Nous, enfin,
c'est pas
prix,
vous qui les choisissez, on sait, hein, mais ça va donner quoi?
Nous, on a une laiterie locale qui s'est engagée à maintenir les prix parce qu'elle a mis de l'argent de côté pour en cas de coup dur.
Mais par contre, doper le prix national, baisse le prix du lait et la guerre en Iran n'y changera rien pour l'instant.
Et du côté des frais fixes, du côté des coûts que vous avez, que vous engagez pour la production du lait?
Par exemple, je vais vous dire, avant quand je commandais du GNR, donc pour les tracteurs.
Le gazole non routier, le gazole des tracteurs.
Ouais. À 700 euros à peu près des 1000 litres. Et là, on est plutôt, j'ai eu de la chance, on est à 1200, mais on a déjà fait du 1300 euros les 1000 litres.
Et les cuves sont vides chez vous? Elles se vident vite ou
Ah non, on n'a pas le choix. Faut faire, on a des signes à faire. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de ramasser de l'herbe. On fait ce qu'on appelle un chantier d'ensilage pour faire des fourrages, des réserves.
Ouais, bien sûr. Donc, c'est la saison où il faut en profiter. Ouais. Ah bah c'est le problème, c'est qu'en plus vous êtes tenu à la saison. Vous, on peut pas vous dire attendez 6 mois le gazole sera moins cher parce que c'est maintenant ou jamais quoi.
Nous, je sais qu'il y a des agriculteurs, des céréaliers qui ont dit cette année les coûts sont tellement exorbitants qu'on ne sème rien. Mais nous, on a des vaches, il va bien falloir les nourrir.
Ah oui, il faut les nourrir, il faut tirer le lait, il faut continuer l'activité. Laurence, merci en tout cas d'avoir apporté votre témoignage à la fois sur le prix de revente du lait avec une laiterie qui clairement vous soutient et à la fois sur la question des frais engagés. On en parle avec Pierre Rondeau juste après le journal de 8h. Réaction en direct, Laurence au 32-16. Merci beaucoup. Laurence, dans un instant, le face-à-face sur RMC et BFM TV avec Marie Chantrey et son invité Christian Proutot. C'est le fondateur du GIGN et c'est aussi le fondateur et premier commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République. C'est sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'écouter RMC, 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Thomas Péquer.
À la une ce matin, c'est une information RMC. La compagnie française Transavia annonce supprimer 2% de ses vols sur les mois de mai et juin. Décision liée à la flambée des prix du kérosène. À l'étranger, le ministre des Affaires étrangères iranien vient d'arriver à Saint-Pétersbourg. Il va s'entretenir avec Vladimir Poutine. Pas de confirmation, en revanche, de nouvelles discussions directes entre l'Iran et les États-Unis. Aux États-Unis, toujours, le tireur qui a tenté de s'en prendre à Donald Trump samedi soir sera présenté à la justice aujourd'hui, juste avant de passer à l'acte. Il avait envoyé un manifeste à ses proches. Il y écrit sa cible noir sur blanc, l'administration Trump. Le président américain le qualifie de personne visiblement très dérangée. Verdict attendu aujourd'hui pour le rapport parlementaire sur l'audiovisuel public. 30 députés se réunissent en début d'après-midi. Au programme, un vote pour décider si le rapport sera rendu public ou non après des mois de travaux sous tension. En football, gros coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille, tenu en échec contre Nice au Vélodrome hier soir. Un partout, les Marseillais se retrouvent à 4 points de la place qualificative en Ligue des Champions. La météo aujourd'hui, du soleil et de la douceur avec ce matin des nuages présents sur le littoral méditerranéen entre le sud de la Garonne. Partout et ailleurs, c'est lumineux. Coup de tonnerre, attention attendu sur les reliefs du sud, les Pyrénées, les Alpes du Sud et le Massif central. Côté température, eh bien, elles se maintiennent au-dessus des normales de saison, comprises entre 18 et 22 degrés près de la Manche, entre 22 et 27 degrés cet après-midi sur le reste du pays. Il fera 17 à Cherbourg, 20 à Caen et Lille, 23 à Reims et Metz et 26 à Bordeaux.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
C'était le rappel des titres de Thomas Becker. Dans un instant, sur RMC et BFM TV, Marie Chantrey reçoit Christian Proutot pour le face-à-face, le fondateur du GIGN, fondateur et premier commandement du groupe de sécurité de la présidence de la République.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Marie Chantrey.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Christian Proutot.
Bonjour Marie.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Je le rappelle, vous avez été fondateur du GIGN, mais également fondateur et premier commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République, le GSPR. On va évidemment aborder avec vous les suites de l'attaque évitée de justesse à Washington il y a 24 heures maintenant. La troisième fois depuis 2024 que Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat. On va revenir en détail sur le déroulé de cette soirée. Mais d'abord, vous, l'expert en sécurité, qui avez analysé toutes ces images avec nous en plateau, qui avez lu également, pour vous, y a-t-il eu des failles de sécurité? Peut-on ce matin l'affirmer quand, dans le même temps, on entend un président américain qui semble totalement dédouaner les services secrets?
Oui, effectivement, non seulement il y a eu des failles, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et c'est surprenant que le président lui-même, qui qui a été relativement critique quand sa sécurité était assurée par ses prédécesseurs, puisse considérer que simplement parce qu'il a changé la tête des secrets de service, ça irait mieux. Le problème, il est endémique dans le système américain, c'est-à-dire que vous avez une succession de responsabilités qui fait que ce partage de responsabilités n'a pas un continuum qui permet effectivement d'être sûr que tout le monde est à la hauteur de l'événement particulier dans la coordination entre les services.
Et on va y revenir longuement. Je dis semble dédouané parce que Donald Trump a accordé plusieurs interviews depuis hier et il le dit. Franchement, ça a été très rapide, je le cite. Ils l'ont arrêté net, il n'y a aucun doute. Il ne s'est jamais approché des portes, n'a jamais été sur le point de les franchir. Parlant du tireur présumé qui, en effet, n'a pas atteint la salle où se déroulait cette réception. Mais néanmoins, il y a, semble-t-il, des trous dans la raquette, encore une fois. Selon nos confrères du Washington Post, le dîner n'avait pas été classé au niveau maximal de protection réservée à de grands événements. Quand on voit qui était dans la salle, ça interroge.
Oui, tout à fait, d'autant que l'on sait que compte tenu à la fois du tout contexte international, mais également de la détestation que déclenche Trump autour de lui, de ce président spécifiquement, il y a en plus, avec ce que l'on connaît de l'histoire américaine, malheureusement, une répétition d'un certain nombre d'agressions de chefs d'État où la politique se gère à coups de fusil. Et on ne comprend pas que, ayant réuni dans la même salle autant de gens importants, même si effectivement, au départ, le dîner n'était pas un dîner organisé par la Maison Blanche,
l'association des journalistes couvrant en effet la Maison Blanche, mais en coordination avec la Maison Blanche. Il y a une liste qui leur a été transmise et vous parliez des personnalités présentes. Là encore une fois, nos confrères de CBS le disent. À une même table, le président, son vice-président, qui, on le rappelle, ne sont pas autorisés à voyager dans le même avion. Ça, c'est le cas en France également. Mais des dizaines de ministres secrétaires d'État, est-ce que pour vous, la sécurité n'était pas au niveau ?
La sécurité n'était absolument pas au niveau, même si sur la fin, ce que l'on voit, c'est-à-dire arriver l'unité spéciale du FBI qui assure la couverture, si effectivement l'attaque avait été plus importante, il y aurait une réactivité. Mais même le fait qu'un homme ait pu s'approcher aussi près, même si, comme le dit Trump, et ça semble le rassurer, au moins rassurer le fait que l'USS, le Secret Service n'a pas failli, il n'est pas normal que dans ce type d'événement, on puisse se trouver face à une situation où un homme se retrouve en gros à quoi, 30 mètres du président des États-Unis, même s'il n'a pas pu franchir l'escalier.
Parce que de nombreuses questions se posent aussi sur le profil du tireur et sur comment il a pu être dans ces lieux. On le rappelle, le Hilton, un hôtel qui accueille donc régulièrement des clients, des voyageurs. Il semblait être dans cet hôtel depuis plusieurs jours. Ce qui fait quoi ? Que penser que les services secrets, les services de sécurité n'ont pas scanné les clients, n'ont pas repéré ce type de profil. On le rappelle, il avait sur lui au moins deux armes, des couteaux. Là encore une fois, pardonnez-moi, mais on est un peu interloqué par le fait qu'il ait pu posséder un tel attirail.
Oui, c'est non seulement surprenant, mais c'est invraisemblable de se dire que il n'y a pas eu, au niveau de la les États-Unis qui sont un pays où tout le monde est maintenant fiché. Il est très difficile de passer à travers les systèmes qui sont mis en place.
Même si on le rappelle, la détention, le port d'armes est autorisé, l'achat également. Oui. Mais vous êtes fiché. Ça inclut finalement, voilà, ça a pour conséquence de vous ficher.
D'autant qu'il les a achetés officiellement, parce qu'il aurait pu les acheter sur d'occasion et autres, ça arrive. Et à ce moment-là, il apparaît pas forcément sur les fichiers. Mais le fait de croiser les fichiers aurait dû permettre, normalement, au moins dans la partie qui est la partie renseignement, puisque la sécurité, c'est quatre niveaux. Le niveau du renseignement, le troisième niveau qui est un niveau un peu plus large, le niveau qui a failli qui est le deuxième niveau, et le dernier niveau, celui qu'on appelle le premier mais qui est en fait le dernier, qui est le cercle qui est autour de l'autorité lui-même et qui a permis l'exfiltration du président et qui est le Secret Service. Mais normalement, tous ces niveaux doivent travailler en coordination.
Et c'est ce qui semble-t-il a manqué. Voilà, de plusieurs témoins reviennent des témoignages, la plupart du temps similaires, sur ces portiques de sécurité très classiques que l'on peut trouver dans les aéroports, par exemple. Mais finalement, de simples contrôles de sécurité seulement, quand on sait qu'était présent encore une fois le président des États-Unis, sans doute la personne la plus protégée, voire la plus menacée au monde, l'expert en sécurité que vous êtes dit c'est insuffisant là encore.
Je dis que non seulement c'est insuffisant, mais c'est par rapport aux gens qui étaient, par exemple, au dernier contrôle dont vous parlez. On le voit très bien sur les images qui tournent en boucle, où on voit l'homme courir. Comment se fait-il qu'un homme ait pu arriver à un niveau où l'on sait qu'il y a le chef de, à un demi-étage près, en sous-sol, il ait pu descendre avec un fusil, sans avoir attiré l'attention de quelqu'un, et ensuite se mettre à courir, et n'être intercepté, on le voit très bien, par les, il y en a 8 en plus,
absolument.
S'il n'y en avait qu'un, bon, on pourrait comprendre, mais il y avait au moins déjà le nombre, mais le manque de réactivité de cette équipe est vraiment concernant.
Avec l'ironie que l'on connaît du président américain qui dit hier, il aurait pu être recruté par la Ligue de football américain tant il courait vite, ça c'est les observations de Donald Trump, neutralisé sans être abattu. Là aussi, l'expert en sécurité que vous êtes, il va comparaître aujourd'hui devant un tribunal américain. C'est la doctrine, on tente de le neutraliser sans l'abattre, sans le tuer. C'est une force, là aussi?
Alors, c'est une force chez nous, pas vraiment aux États-Unis. C'est ce qui m'a fait dire que pour une fois, les Américains, en dehors de l'échec de l'interception de cet agresseur, un peu plus tôt, c'est-à-dire au moment du dernier contrôle, hein, qui était le dernier contrôle en fait, n'a pas été transformé en écumoire, donc il n'a pas été troué de tous les côtés, mais il n'y a eu que 5 coups de feu qui ont été tirés, et ça aurait pu être également, dans la maîtrise de l'événement, quelque chose de gravissime à l'intérieur, parce qu'il y avait beaucoup de responsables de sécurité, chaque haute personnalité ayant sa propre équipe de sécurité, il y a eu une maîtrise des armes assez exceptionnelle aux États-Unis pour pouvoir être souligné, ça c'est important.
Des coups de feu tirés, et donc vraisemblablement tirés par les Secret Service, ou en tout cas les services de sécurité, pas forcément donc de cet assaillant présumé, Cole Thomas Allen, 31 ans. Est-ce que pour vous, là encore, d'un regard extérieur, tout a été assuré? Parce que certains experts ont dit qu'il aurait pu porter sur lui, je ne sais pas, un gilet d'explosif. Est-ce que là aussi, dans la manière dont ont réagi les forces de l'ordre à ce moment précis, tout a été respecté, ou vous sentez de la précipitation de leur part?
Ah non, mais là, ils ont été complètement surpris. C'est ça qui est la problématique. Ouais. C'est que on voit bien sur les images de ce dernier contrôle que ils ont contrôlé tous les gens qui étaient les gens les moins dangereux, c'est-à-dire les invités, et que pour eux, la fête était finie. Et il n'y avait personne à ce moment-là. Au moment où l'agresseur court, il tourne le dos à l'agresseur. Et c'est parce que le premier qui dégaine d'ailleurs, qui est sur la table, ou à mon avis devait regarder à l'intérieur des sacs si ça sonne avant, ou parce qu'apparemment ils présentaient à peine même leur invitation, il se retourne et il dégaine, mais c'est là où le président a eu ce trait d'humour en disant qu'il aurait pu être dans le football américain un quarter, c'est-à-dire celui qui court le plus vite, même si je suis pas un spécialiste du football américain, parce que il a couru tellement vite que il est tombé, c'est ce qui a permis son interpellation et qui a fait qu'il y a eu que 5 coups de feu tirés, ce qui est quand même, je le rappelle, par rapport à ce que l'on a malheureusement tendance à voir aux États-Unis au niveau de la maîtrise du feu, quelque chose d'assez important pour le souligner.
En tout cas notable, c'est notable, sûr.
Absolument.
Le profil du loup solitaire semble se préciser. Cole Thomas Allen, est-ce que ça vous semble plausible? Est-ce qu'une telle, ça semble préparé? Il s'est installé dans cet hôtel quelques jours avant de passer à l'acte. Il a donc réfléchi son acte, et on apprend également qu'un manifeste qu'il a écrit de ses mains a été envoyé notamment à certains de ses proches. Est-ce qu'encore une fois, une telle attaque préparée, peut-être préparée par un seul homme.
Oui, je le pense, parce qu'on connaît trop ces profils, qui sont des profils malheureusement que l'on qualifie de suicidaires et qui sont valables pas simplement à travers des gens qui ont un engagement politique. Je veux dire un engagement politique avec des équipes armées et tout. Non, vous avez des gens qui tout d'un coup font une fixation sur un personnage.
Ce qui semble être le cas, considérant qu'aujourd'hui, et je le cite, Trump salit mes mains avec ses crimes, un manifeste aussi anti-chrétien, tout ce mélange également, ça semble être le profil qui se dégage de cet homme, oui, qui va comparaître encore aujourd'hui.
Absolument, avec en plus cette fascination pour les jeux vidéo, où il se construit un film, et d'ailleurs on le voit dans le manifeste, il explique, ça va pas, ils savent pas travailler, ils auraient dû faire ça, ils ont pas fait ça, vous vous rendez compte, j'ai pu faire ça, mais je ne tuerai que telle ou telle personne. Enfin, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui a, à travers le côté obsessionnel, déclenché chez lui ce passage à l'acte que l'on redoute tous dans nos métiers, parce que autant le renseignement, comme je disais, le quatrième cercle de sécurité qui est le renseignement, peut vous permettre d'anticiper, mais ça vous permet pas d'anticiper des personnalités comme celle-là.
Des individus qui passent au travers des mailles du filet. Les questions qui se posent désormais, c'est sur les conséquences de la sécurité de Donald Trump. Personne ne m'avait dit, là encore plein d'ironie, que c'était un métier aussi dangereux, les mots du président américain hier. Selon certains médias, Fox News en particulier, sa sécurité pourrait être massivement renforcée dans les prochains jours, voire jusqu'à porter un gilet pare-balles en public. Est-ce que là encore, ça vous semble une option envisageable ou à envisager pour le président américain, vous l'expert en sécurité que vous êtes?
Alors ça me paraît tellement ironique, je n'arrive pas à comprendre même qu'on ait pu présenter ça comme étant l'arme ultime, parce que d'abord, ne serait-ce que pour ce qu'on appelle les balles à grande vélocité, la plupart des gilets pare-balles, ce qu'on appelle second chance, que l'on ne voit pas, qui vous transforme pas comme vous l'avez vu avec les équipes spéciales, en particulier celles de secret service que l'on a vu arriver après coup. Et ceux qui ont exfiltré le président, qui eux, on appelle ça des second chance sous la chemise, les balles à grande vélocité ne peuvent être arrêtées que par les gilets lourds que l'on a vu avec les dernières
équipes. Ce qui n'est pas envisageable pour un président qui se déplace. Et par ailleurs, certains pointaient du doigt que en Pennsylvanie, en 2024, il était alors en campagne. Il a été touché à l'oreille, de justesse, mais la tête était visée. Et donc, un gilet pare-balles n'empêchait pas finalement peut-être de le tuer ou de l'assassiner. Ça aussi, c'est une réalité.
Oui, non seulement c'est une réalité, mais déjà envisager que vous allez être obligé d'arriver à l'ultime protection, c'est-à-dire bien tout a failli avant, ça veut dire que l'ensemble du dispositif, vous n'y croyez pas. Donc, à mon avis, la réponse est une mauvaise réponse, un vrai problème.
Christian Proutot, d'un point de vue plus politique, vous qui avez été aux manettes, je le disais, et du GIGN et du groupement de sécurité de la présidence de la République en France, des failles semblent se dégager. Est-ce que pour vous, politiquement, des conclusions doivent être tirées? Vous en parliez, Sean Curran, qui est le nouveau patron des Secret Service, nommé par Donald Trump, qui l'a d'ailleurs sauvé de cet attentat manqué en juin 2024, doit-il être limogé? Est-ce que pour vous, ça fait partie de la symbolique et des conclusions à tirer?
Alors, c'est tout le problème de la responsabilité que j'ai évoqué au début de notre entretien, qui fait que aux États-Unis, cet empilage de responsabilité permet de dégager la responsabilité de Sean Curran.
Vous dites que ça les dissout finalement.
Voilà. Oui.
C'est ça aussi la conséquence politique.
Voilà. Et si les États-Unis veulent prendre en compte la problématique, elle est simple. C'est qu'il faut obliger les services à travailler entre eux. C'est un problème que nous on a connu en France, qui est maintenant résolu depuis la création du GSPR, où c'est en priorité le patron, celui qui est en charge de la sécurité du plus haut personnage, qui peut être en mesure de décider ce qui est mis en place et comment les services doivent fonctionner avec ensemble.
Et on verra du côté américain si des conséquences sont tirées. À vous, l'ancien patron du GSPR, encore une fois, aucune personnalité avant-hier ni invitée n'a été blessée. Seul un officier des Secret Service a été touché au gilet par balle, transporté à l'hôpital. Il est seulement blessé. Une image a retenu mon attention, peut-être aux téléspectateurs, de cet agent qui s'est interposé. L'assaillant n'était pas dans la salle, mais il prenait tous les risques. Oui. C'est ça aussi l'engagement. Profession garde du corps, sentinelle, une vie pour une autre. Quand vous signez pour être agent des Secret Service, vous risquez votre vie.
Voilà, c'est la réaction que l'on a normalement, ce qu'on appelle le premier cercle, hein, qui est soit le triangle, ils sont trois, soit cinq, le diamant. Et vous disiez que j'avais été le patron du GSPR, mais j'étais pas
de
le patron.
De la sécurité du président français, hein,
voilà,
précise.
Je n'étais pas le patron sur le terrain, mais les hommes que nous avons formés avec les officiers, dont Alain Le Carreau qui commandait cette unité, tout de suite a été un engagement qui pouvait conduire à perdre leur vie pour défendre le chef de l'État. Et ça, c'est l'engagement qu'ils avaient d'entrée.
Quand vous signez pour ce type de métier, de profession, vous savez que c'est le risque possible.
Absolument. Sinon, il faut faire autre chose et puis pas vouloir venir simplement pour avoir des rébanes et une oreillette.
Christian Proutot, une toute dernière question sur l'analyse que vous faites de la situation. La visite de Charles III à Washington a été maintenue. On sait que la couronne britannique a été en lien direct avec la Maison-Blanche toute la journée d'hier. Une remise en cause d'une telle venue aurait dû être envisagée, selon vous. Est-ce que c'est légitime de la maintenir ?
Moi, je pense que c'est plutôt les Britanniques qui auraient pu se poser la question. Mais c'est une visite officielle, et vous le soulignez tout à l'heure, malheureusement. Ce dîner n'était pas, au départ, organisé par la Maison-Blanche. On n'a pas mis en place, ou peut-être on a laissé mettre en place un système qui n'a pas été supervisé par ce qu'aurait dû faire l'USSS, le Secret Service. Ils auraient dû vérifier qu'effectivement il y avait un continuum au niveau de l'efficacité des dispositifs de contrôle, et ça, à mon avis, ça n'a pas été fait, simplement parce que c'était pas une visite officielle. J'espère que dans le cadre de la visite officielle, ils vont en prendre compte et que ça ne sera pas le cas. Je suis sûr que de nos
correspondants, la capitale américaine est très très protégée ces dernières 24 heures. D'un point de vue d'expert, juste un mot sur ces vidéos. C'est vrai que ça marque les esprits, à quel point on a pu suivre cette attaque limite en temps réel grâce au téléphone portable que chacun a dans sa poche. Est-ce que pour l'expert en sécurité que vous êtes, c'est utile ? Est-ce que pour l'enquête qui est en train de démarrer, c'est une arme essentielle ?
Bah, écoutez, c'est une arme à double tranchant, bien évidemment, mais pour faire ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le rétex, c'est très utile, parce que au moins ça permet de mettre les points sur les i et dire voilà, ça n'a pas marché pour ça, ça et ça. J'espère qu'ils ont pas besoin, ils avaient pas besoin de ça pour s'en rendre compte.
Christian Proutot, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Il est 8h47, presque 47 sur RMC et BFM TV.
C'était le face-à-face. Merci Marie Chantrey. Retour sur RMC avec Nicolas Canteloup pour Face à Canteloup dans un instant. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
8h50, Face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. C'est Face à Canteloup sur RMC. Christian Proutot était l'invité du Face à Face ce matin. Il est resté avec nous. Donald Trump voulait réagir à cette interview.
Hey, salut, Béliane! Ça va pas là, Pauline? Où est Pauline? Les gens, ils savent pas, mais tu es américain, il faut le dire. Il a la nationalité américaine, je le sais. Et comme tu es un bon américain, je suis sûr que tu lui as tiré dessus à Pauline.
Là, ça commence bien cette rubrique.
Tu as vu ça, Béliane? Ça fait six fois qu'on essaye de tuer le Donald. Mais le Donald, il est toujours là, immortel, dans ton cul, Jésus. Vous avez la chance, je vais pouvoir continuer à sauver le monde grâce à mon bordel que j'en mets tout partout. Et en plus, j'ai rien pour essuyer.
Concernant le tireur, vous avez parlé d'un cinglé dont on ne connaît pas les motivations.
Oui, lui, il est cinglé. Alors que moi, tout le monde le sait, je suis génie. Mais même s'il est cinglé, je l'aime bien quand même, ce gars. Je vais même pas le foutre en prison. Je vais juste lui faire des travaux d'intérêt général. Je vais jouer au golf. Je vais le prendre à Mar-a-Lago et je le prendrai comme caddie, puisqu'il aime bien faire des trous. Oh.
Sinon, vous en êtes où avec les Iraniens ?
Alors, on a pris des avocats pakistanais. Oui, parce qu'ils sont moins chers. Pour négocier avec les Iraniens, la garde alternée, c'est
garde,
dur à dire.
La garde alternée de quoi?
La garde alternée du détroit d'Hormuz. On leur a proposé de bloquer le détroit à tour de rôle. Une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires. Les Iraniens, ils sont pas faciles à négocier, on se comprend pas. Ils jouent pas au même jeu, les Iraniens, ils jouent aux échecs, alors que moi, j'aime pas les échecs. Je préfère jouer aux dames. Elle est pas là, Pauline. Elle est là, Pauline.
Ben merci, monsieur Trump, merci. Christian Proutot est donc resté avec nous.
Non, ce n'est pas Christian Proutot. Tu as entendu ma voix, je suis le père Fouras. C'est juste que j'ai pas eu envie de m'emmerder à mettre ma barbe et mon costume. C'est vrai que cet attentat est une énigme, jeune aventurier. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui est fripé, orange et sur lequel on a envie de tirer? Non, c'est pas mon doigt, c'est Donald Trump. Si j'avais été sur place, j'aurais dit à Donald Trump, sors, sors. Voilà, c'était mon analyse.
Merci, monsieur Proutot. Notre consultant sécurité est avec nous. Vincent Moscato souhaite réagir.
Attends, au total, ça fait six fois quand le canard de Donald ne sait plus attaquer, c'est plus un président, c'est un ballon de baudruche à la fin du trône. Non, mais c'est pas la peine de me faire des caisses non plus, cette histoire. L'autre cinglé, il avait aucune chance d'arriver jusqu'à toi et moi. C'est comme si tu files un ballon de rugby à Keston Villem et tu lui dis vas-y, le cure-dent, vas-y, va percer la défense de All Black. Résultat, le cinglé, il a fini allongé à poil avec des menottes dans le dos. Ça me parlait, t'as vu les autres dans la salle aussi, les autres, les filles en talons, mini-jupe, à plat ventre sur la moquette, avec tous les gars smoking couchés dessus pour les protégé. Le Donald, il a adoré. Il était dans son univers, pas de paysage, tranquille. Quand il a vu la scène, il a dit putain, super, encore une soirée qui part en sucette comme chez Epstein.
Merci Vincent. Et tout de suite, on retrouve Pascal Pro pour les titres de l'actualité.
Eh oui, bonjour mon cher Mathieu, tout le monde est là, Christian Proutot, Stéphane Bourneau, Bureau, Arnaud Demange, Thibaut Texter, les plus grands sont là, n'est-ce pas, Delia. Mathieu, c'est vous qui remplacez donc Apolline. Oui. Et voilà. Mais encore une preuve du grand remplacement. Voilà. Mais oui, mais non, mais pardon de dire les choses, mais vous avez beau essayer de vous faire des chignons, mais vous ne ressemblerez jamais à Apolline de Malherbe, ça ne trompe personne. En tout cas, aujourd'hui, vous le savez, est un jour sombre avec cet attentat contre Donald Trump.
Alors oui, mais heureusement, la série ne lui a pas tiré dessus.
Mais oui, mais justement, c'est sombre. Pourquoi il l'a loupé? Pourquoi il l'a loupé? On a besoin de s'en débarrasser de Trump et rapidement. Mais je vous explique. Sur CNews, on l'a tellement soutenu. Alors qu'aujourd'hui, il fout tellement le bordel partout. Les gens le détestent. Et nous, naïvement, je dirais même connement, on l'a encensé. Du coup, maintenant, on n'arrive pas à se décoller l'étiquette de gros lèche-cul que nous avons peut-être. Que nous avons, je dis bien, peut-être. Nous avons peut-être, c'est vrai, un peu zété. Bon, bref, à cause de lui, nos audiences sont divisées par deux.
Allez, on sait, Pascal, on sait. Allez, les titres.
Oui, ben oui, les titres. Oui. Ce week-end, nous fêtions donc les 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl. Oui, j'emploie le verbe fêter, car 1986, Christian Proutot s'en souvient, c'était le bon vieux temps. La France avait encore des frontières dignes de ce nom. Mais si, la preuve, elles étaient même capables d'arrêter un nuage radioactif. Alors qu'aujourd'hui, on sait les frontières, elles laissent passer tout et n'importe quoi. La situation est toujours confuse dans le détroit d'Hormuz, on n'y comprend plus rien. Les Américains prétendent que le détroit est ouvert, tandis que les Iraniens disent qu'il est de nouveau fermé. Pardon, mais ça change tous les jours. Les jours et horaires d'ouverture du détroit d'Hormuz sont encore plus difficiles à suivre et à comprendre que ceux de la Sécurité sociale ou de la bibliothèque municipale.
Merci Pascal. Christian Proutot, responsable de la sécurité des présidents pendant des années, était donc notre invité. Et...
Mais c'est moi que vous auriez dû inviter.
Bonjour Nadine Morano.
Ouais, salut le Béliard. En protection rapprochée des présidents. Là, Nadine, elle s'y connaît. Mon Sarko, je n'ai jamais lâché de 3 cm. Un vrai pitbull, la Nadine.
Comment vous avez trouvé l'interview de Christian Proutot qui a fondé le GIGN.
Ouais, non, mais la protection des présidents, ça n'a jamais été évident. Un président, ça aime le contact. Ça aime serrer des louches, voilà. Hein, donc ton dispositif, faut qu'il soit léger, sinon ça le gêne. Ben ouais, tu connais le proverbe, il le sait, Christian Proutot. Là où il y a du GIGN, il n'y a pas de plaisir.
Vous étiez la seule à le protéger ?
Non, j'étais pas la seule, mais j'étais la plus fiable. Voilà, je la vois qui part. Regarde, c'est les gardes du corps, ces deux derniers, Guéant et Hortefeu. Mais au final, c'est eux qui l'ont planté le couteau dans le dos à mon Nico. Hein ? Comme quoi, les mauvais coups, ça peut venir des plus proches. Donc je dis à mon petit Marshall, méfie-toi de Truchot.
Merci Nicolas. Face à Canteloup, pour tout, dès demain, à 8h50 sur RMC et à tout moment, bien sûr, en podcast.